Mesdames et messieurs de la NASA, ici Charles Xavier. Les secours arrivent.
Une mission spatiale.
Cool.
On va chercher les astronautes, on les ramène. Go!
La température augmente très vite.
Il faut dégager d'ici.
Où est Jean? Où elle est? Jean!
Ah bah ouais, elle est passée au Jean. Peut-être que la réponse se trouvera dans cette émission. Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de Comics Office Watching, où, tel le phénix en relais de nos cendres, après quelques mois de repos, on va dire. Comme toujours, c'est moi, Marty, au micro. Et pour m'accompagner, quelle surprise, il me suit toujours derrière, il bat des ailes vigoureusement pour ne pas me perdre en chemin, c'est bien sûr Jonathan.
Salut à tous.
Comment vas-tu?
Très bien, très bien.
Ah bah super, chaud bouillant pour cette review.
Oui, oui, va bien falloir.
Oui, ouais, un vrai brasier ardent qui nous attend, n'est-ce pas? Enfin, qu'il y a, ça, il y a un film qui nous a irradié les paupilles.
Est-ce qu'on peut vraiment parler de brasier, hein, dans...
ou de brûlot, ça dépend, ça dépend de quel est ton point de vue. Donc oui, comme vous l'aurez compris, soit par nos jeux de mots foireux, soit tout simplement en ayant lu le titre de l'épisode, nous allons traiter aujourd'hui de X-Men Dark Phoenix. Au Québec, je crois qu'ils n'ont pas fait Phoenix Noir. Je ne suis pas sûr qu'ils sont allés jusque-là.
Mais il n'y a même pas X-Men hein, dans le titre. C'est directement Dark Phoenix. Hein.
Ah bon
ouais.
Ah non, au Québec, Phoenix Noir. Ils ont laissé Phoenix Noir. En français, c'est X-Men Dark Phoenix.
Non.
Ah non, y avait pas, moi, je suis sûr, quand le film commence, je suis sûr d'avoir bien lu X-Men Dark Phoenix.
Ah bah, quand le film commence, peut-être, mais... Ah si, il y a X-Men Dark Phoenix, ouais, ils ont rajouté le X-Men devant en France. Mais par contre, à l'international, aux États-Unis en tout cas, ils ont mis que Dark Phoenix.
Ah oui.
Et c'était notamment... Enfin, il y avait certains qui disaient que les mauvais scores au box-office pouvaient éventuellement être dus à ça aussi. Au fait qu'il n'y avait pas le tag X-Men devant, quoi.
Alors, c'est complètement bizarre, mais bon. Bah, ils nous avaient déjà fait le coup en 2003 pour X-Men 2 qu'ils avaient appelé X2, X-Men United. Maintenant, il y avait quand même X-Men, mais déjà là, ils faisaient des choses bizarres avec leur titre. C'est vrai. Et du coup, au Québec, c'est uniquement Phoenix Noir et pas X-Men Phoenix Noir. Ouais. Ah, c'est fou, c'est marrant ça. Ils ont voulu flinguer le film jusqu'au bout ou quoi? Enfin, je comprends pas.
Bah écoute, oui. Bah, malheureusement, c'est un film qui a été produit en même temps que la Fox était rachetée par... Enfin, en tout cas, une partie de la Fox, Fox Entertainment et tout ce qui était la production de films était racheté par Disney. Et j'imagine que du côté de la Fox, on a un peu laissé de côté un projet qui, de toute façon, n'allait pas aboutir à grand-chose quoi derrière. Donc,
Bon, alors quand même, le tournage, je vois qu'il a été effectué à Montréal, on retourne au Canada.
Ils étaient déjà sur Apocalypse, il me semble. C'est pas la première fois qu'ils tournent à Montréal.
Ok, d'accord. Donc, du 28 juin 2017 au 16 octobre 2017, c'est vraiment un film qui a été tourné quand même bien avant le rachat de la Fox, tout comme New Mutants, qui n'arrête pas d'être reculé, hein, qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'il sortira, et surtout sur quelle plateforme il sortira. Et donc, voilà, le film, à la base, il comptait même continuer l'univers. Il y avait New Mutants, il y avait des projets à la fois de Deadpool 3 et de X-Force. Enfin, ça devait continuer. Et ils avaient prévu de faire d'autres films X-Men avec ces membres-là. Et donc, on a eu, comme tu l'as dit, Jonathan, le rachat de la Fox par Disney qui a quand même pas mal chamboulé les plans. Dark Phoenix a été repoussé, New Mutants, on ne sait pas quand il sortira. Et donc, prochain film X-Men, on fera Tabula Rasa. Sauf pour Deadpool, où ils ne savent pas trop. On en reparlera en temps et en heure. Hein. Ça marche tellement, Deadpool. Et c'est vrai que Ryan Reynolds, il est tellement, il imprègne tellement le rôle, un peu comme Hugh Jackman avec Wolverine, qu'on a même du mal à voir quelqu'un d'autre dans le rôle. Voire même, ce serait peut-être un peu contre-productif que de le changer. Toujours est-il que donc, X-Men Dark Phoenix clôt la saga X-Men au cinéma, si on exclut donc le cas New Mutants, qui a priori sera peut-être même totalement déconnecté. Et comme je l'ai dit aussi, ça reprend les jeunes X-Men introduits dans Apocalypse, à savoir Sophie Turner en Jean Grey, Ty Sheridan en Cyclops, mais on a aussi les acteurs qui sont là depuis First Class, hein, James McAvoy en Xavier, Michael Fassbender en Magneto, Jennifer Lawrence en Mystique, Nicolas Hoult en Le Fauve, et je crois que c'est les seuls qui sont là depuis First Class, si je dis pas de
Ouais,
bêtises.
puisque Rose Byrne, qui était revenue pour Apocalypse, n'était pas là.
Bon, elle n'est pas dans le scénario, on n'en parle plus. Déjà que...
Moira MacTaggert, donc bon. Donc
Voilà, oui.
effectivement, ouais, c'est les seuls, il me semble que c'est bien les seuls qui reviennent, quoi.
C'est vrai que c'est dommage pour Moira parce qu'on nous a fait tout un pataquès sur Oh, Xavier, il est amoureux de Moira, ouh là là!
Bah oui, c'était l'un des plots. Elle était même dans l'équipe de fin, quoi, fin des X-Men. Xavier lui avait appris qu'il lui avait effacé la mémoire dans le premier. Enfin,
Oui,
il y avait
ouais.
tout un plot sur
Ce qui
ça. Hein.
n'aide pas d'ailleurs à établir une relation de confiance. Hein. Franchement, si vous voulez séduire une nana, évitez quand même de lui effacer la mémoire.
Oui, c'est vrai.
Et surtout, maintenant que j'y pense, alors on embraye déjà sur le scénario. Bon, alors déjà, on prévient, comme d'habitude, j'oublie de le faire dès le début, c'est full spoiler.
Oui.
Et on va quand même aller, on va essayer, je dis bien essayer, de faire moins long que d'habitude. Et on va rentrer tout de suite dans le plot. Mais je trouve que c'est dommage qu'elle soit pas là, Moira, parce que parmi toutes les choses que lui reproche Mystique et le fauve, bah, finalement, Moira aurait pu être dedans. Ça aurait bien appuyé le fait que Xavier échoue en disant, ouais, bah, regarde, même Moira, l'amour de ta vie t'a quitté. C'est dommage, ça aurait fait une ligne de dialogue intéressante qui aurait en plus justifié le fait qu'elle soit absente.
Ouais, ou à défaut, enfin, tu vois, elle serait peut-être restée en bon terme avec Xavier, et elle aurait peut-être pu montrer que, bah, justement, voilà, Xavier n'était pas non plus totalement corrompu comme certains veulent bien le dire, quoi. Donc,
Oui, voilà, ouais. Il aurait pu la rejoindre à la fin quand il prend sa retraite aussi.
d'un côté comme de l'autre, elle aurait pu effectivement jouer un rôle dans ce subplot, quoi.
Oui, voilà, ouais. On aurait pu lui trouver une utilité, même en ne l'utilisant pas directement devant l'écran. D'ailleurs, il y a une autre absente depuis le film précédent, ce Jubilé, qui était déjà très sous-employée. Elle ne faisait pas vraiment partie de l'équipe. Hein.
Non.
Quand ils peinaient dans l'arme X ou juste après, ils la bazardent. Elle n'est pas à la fin de la session d'entraînement. C'est un peu dommage. D'ailleurs, c'est un truc qui m'amuse, entre guillemets, c'est qu'on a quand même 10 ans qui se passent entre Apocalypse et celui-là, ou 9 ans. Apocalypse se passe en 83, celui-là, il se passe en 92. On reparlera tout à l'heure hein, des problèmes d'âge ou au contraire des crèmes anti-rides super puissantes qu'ils utilisent, parce que je pense qu'il y a des choses à dire là-dessus. Mais donc, voilà, il se passe 9 ans. Alors, et quelque chose qui est très marrant, c'est que, alors, autant entre chaque film, et même entre les films qui se passent directement les uns après les autres, comme les trois premiers X-Men, ils ne gardent pas la même équipe, il y a des membres qui partent, qui viennent. Là, à part peut-être Jubilé, qui n'est même pas vraiment dans l'équipe, ça change pas, quoi. En 9 ans, il n'y a pas d'addition, il n'y a pas de défection. Ça m'a fait un peu
Ouais.
sourire. Même si, bon, franchement, rajouter un personnage de plus, ça aurait peut-être servi à rien. Mais on a un caméo de Dazzler, par exemple. Bah, elle aurait pu être là en tant que recrue, quoi. Ça aurait été pas mal de montrer qu'il y a au moins un petit peu de sang
Mais il
neuf.
y a tellement de personnages dans cette franchise et qui en plus sont trop peu développés, qui entre leurs pouvoirs, enfin, on sent bien qu'il y a certains persos qui leur posent problème, quoi, tu vois. Donc déjà, ne serait-ce que Mystique, par exemple, donc.
Oui, bah Mystique qui meurt assez vite. Alors j'étais étonné parce que faut dire quand même que depuis deux films, ça devenait le Jennifer Lawrence Show. Alors ça, c'est vraiment, je sais pas si c'est pas vraiment officiel, c'est officieux, mais le fait que Jennifer Lawrence ait explosé avec Hunger Games.
Ah, totalement. Enfin, de toute façon.
Et c'est un peu pareil pour Nicolas Hoult qui de côté est aussi en train de faire sa petite carrière, mais ça les a poussés à mettre plus l'accent sur Mystique et le fauve. Bon, Mystique qui est aussi un perso populaire et intéressant, mais le problème, c'est que ça devient un peu absurde. Enfin, on grossissait leur rôle. Ce qui devenait absurde pour Mystique, ben déjà, dans Days of Future Past, elle devenait l'enjeu du film. C'était un peu foireux. On va pas en faire une émission là-dessus, parce que ce serait trop long, mais je trouvais ça un peu... Ça faisait un peu forcer la façon dont Mystique devenait le centre du
Oui.
film. Et puis, dans le dernier, elle devient carrément gentille. Enfin, là, elle devient vraiment une gentille sans ambiguïté.
Ouais, elle devient un symbole même de comment dire de la mutanité pour les mutants. On voit notamment je crois que c'est Tornade en Égypte, enfin voilà, qui enfin en Afrique en tout cas, je sais plus si c'est en Égypte, mais voilà, qui voit justement la figure de Mystique comme enfin le symbole de du combat contre l'oppression envers les mutants, quoi. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup too much, quoi. Enfin, faut dire les choses comme elles sont, quoi.
Bah, tu sais quoi, ça me dérange même pas, parce vu que si on avait gardé le Mystique ambigu et que ça lui monte à la tête, un peu comme ça arrive souvent à Magneto dans les comics, ça aurait même pu être intéressant, mais non, elle reste vraiment très gentille. Et là, elle meurt. Alors, est-ce que c'est Jennifer Lawrence qui a demandé à ce qu'on amoindrisse son rôle? Est-ce que c'est eux qui savaient fallait tuer quelqu'un, ils savaient pas trop qui, puis Mystique, ils savent pas trop quoi faire pour la mettre en avant. Donc, si tu la tues, elle est pas dedans, mais en même temps, elle garde un rôle de premier plan. Voilà quoi, c'est.
Moi, déjà, faut savoir que Jennifer Lawrence, c'est plus ou moins elle qui a poussé pour que Simon Kinberg remplace donc c'est Bryan Singer à
Ouais,
la
alors on
réalisation.
peut en parler maintenant, oui. Donc vas-y, je t'en prie, raconte l'histoire pour ceux qui n'auraient pas suivi.
Que Bryan Singer, qui était donc le réalisateur de X-Men, le premier hein, de 2000,
De
ouais,
99, 2000, 2000, oui, bah, tournant
de
99, bref.
X-Men 2, donc je crois que c'était ça en 2003, il me semble, ou 2002,
Oui,
2003, ouais,
2003.
et qui était déjà parti, donc, pour, enfin, qui avait pas fait X-Men Last Stand, parce qu'il était parti sur Superman Returns, qui était revenu, donc, pour remplacer Matthew Vaughn, donc je crois que c'était sur X-Men Apocalypse,
Non,
Days
Days of
of Future
Future
Past, ouais,
Past.
déjà,
En
oui.
fait, et dès First Class, en fait, il revient
Oui, il
déjà
était à
aux
la
affaires, il me semble,
production, hein, il me
Singer.
semble, quelque chose comme
Oui.
ça, quoi.
Et d'ailleurs, alors, je te coupe, je fais une parenthèse dans ta
Oui,
parenthèse.
vas-y,
D'ailleurs,
vas-y.
Matthew Vaughn a révélé récemment qu'à la base, il avait imaginé Days of Future Past comme un troisième acte, où on aurait pu avoir ensuite les suites qu'il y a eu, avec un film entre First Class et Days of Future Past, où on voit notamment bah, Magneto qui tue Kennedy. Il y avait tout un tas de choses qu'il voulait développer. Et non, et il avait dit, ben voilà, il allait voir la Fox, il leur a dit, voilà, je vais faire ce film, puis Days of Future Past. Et la Fox ont dit, ben non, on va faire Days of Future Past tout de suite. Et puis Singer l'a évincé à la réalisation, ce qui d'ailleurs est dommage, parce que pour moi, First Class, c'est le plus réussi de tous les X-Men. Et Singer, et je dis pas ça à cause de ses vraiment déboires criminels, enfin, il n'a pas encore été jugé, mais bref, je dis pas ça à cause de la mauvaise presse qu'a eu Singer, mais clairement, Singer, plus le temps passe, plus on commence à se dire que c'était quand même pas mal de la poudre aux yeux, Singer, hein. Ses premiers films assez acclamés, ben, c'était en grande partie dû à ses partenaires, comme je crois que c'était Christopher McQuarrie qui avait écrit, par exemple, Usual Suspect, qui était un film un peu culte qui a vraiment propulsé Singer, hein. On se rend compte que finalement, Singer, ben, c'est pas un réalisateur si doué que ça, vu que, ben, à mon sens, Days of Future Past, c'est sympa. Mais à y regarder, c'est un peu le bordel. Et puis pour moi, Apocalypse, c'est vraiment un gros nanar. Voilà, enfin, Apocalypse, moi, vraiment, c'est le pire. Pour moi, je vous mets ça au niveau, limite au niveau d'X-Men 3. Hein. Vraiment, j'aime pas du tout
Quand même, Last
Apocalypse.
Stand, c'est chaud, quoi.
Bon, Last Stand, j'ai jamais osé le revoir. Et Apocalypse,
C'est
c'est juste plus
chaud,
frais dans
quoi.
mon
C'est
esprit.
chaud, Last Stand. Et j'ai regardé Apocalypse donc récemment parce qu'il a été diffusé sur TF1 hein, il y a 10 jours à peu près. Et ouais, c'est chaud, mais pas au. Enfin, alors c'est mon avis, mais.
Disons qu'il y a du fan service dans Apocalypse au
Il
moins.
y a du fan service, mais c'est pas au point de Last Stand où tu sens bien qu'en plus Last Stand derrière il y a des problèmes avec genre ce qu'on disait avec Jennifer Lawrence, hein, mais les acteurs qui poussent pour avoir plus de lignes de texte, enfin tout ça c'est le bordel quoi. Enfin c'est
Oui, on avait ben, la tornade.
elle est Berry.
Albéry qui avait pété un boulon
Ouais.
après avoir eu son Oscar, qui exigeait, alors pas que pour X-Men, hein, mais par exemple pour X-Men 2 et 3, elle exigeait d'être en haut de l'affiche alors qu'on la voit presque pas dans le film, enfin c'était ridicule.
Et à l'inverse, on avait Cyclope qui disparaissait totalement, pratiquement
Oui.
de la scène, donc c'est
Alors, oui, et on s'imagine qu'il va revenir à la fin quelque chose, et non, pas du
rien.
tout. Et puis, bon, alors il faut avouer que Singer reste quand même meilleur réalisateur que Brett Ratner,
Ah
mais donc je referme ma parenthèse
ouais.
qui est totalement bordélique pour te laisser, toi, dire ce que tu voulais dire, puis j'ouvrirai une autre parenthèse tout à
Oui,
l'heure.
donc en fait voilà donc Bryan Singer bon ben on s'imagine bien avec les ennuis qu'on va pas détailler qu'il a eu récemment avec la justice du coup a dû abandonner ce projet-là et Jennifer Lawrence a poussé pour que Simon Kinberg qui est un petit peu le j'ai envie de dire le scénariste historique hein, sur les X-Men. Puisque finalement il était tout simplement sur depuis Last Stand il était sur enfin il a fait Last Stand Days of Future Past il me semble Apocalypse et Dark Phoenix enfin voilà c'est quelqu'un qui revenait assez souvent et Jennifer Lawrence disait bon ben moi je ne ferai enfin je ne continuerai cette franchise que si c'est lui qui réalise. Donc du coup bon ben il était donc le Simon Kinberg est devenu réalisateur Et on a donc un peu cette mystique qui est clairement là présentée comme la leader hein, des X-Men hein, dès le début du film quoi. Donc c'est un peu gênant quoi. Alors je sais que Jennifer Lawrence a eu vraiment une explosion avec Hunger Games et puis après avec d'autres films. Enfin voilà qu'elle a eu des nominations aux Oscars. Enfin qu'elle a eu un Oscar même pour Happiness Therapy. Mais bon, ça me gêne toujours que voilà ce genre de considération-là impacte la franchise quoi. Parce que le perso de Mystique, moi je suis désolé. Je vois plus des emmerdes à, si tu veux, donner comment dire, des scènes d'action à un perso finalement dans le pouvoir, c'est juste changer d'apparence, quoi, tu vois. À part dans un rôle de méchant, si tu veux, où tu fais un peu d'espionnage, je vois pas trop quel intérêt, enfin, tu vois, c'est compliqué, quoi, c'est très compliqué. On le voit dès la première scène dans la navette, où finalement, elle doit demander à, je crois, de. Elle est juste là en fait pour conduire la navette et c'est tout quoi, tu vois, et donner des ordres donc.
Bah, en même temps, elle est plus vieille qu'eux, elle a plus de bouteilles, ça me choque moins qu'elle soit la chef. Enfin, du point de vue de la chronologie
Oui,
des
voilà,
films, ça peut se
sur.
tenir quand même.
Bon, malgré tout, enfin, on sent bien qu'elle est là parce qu'elle est supposément bankable, quoi. Voilà.
Oui. Et puis d'ailleurs, elle et Nicolas Hoult ont pu exiger d'avoir moins de scènes avec
Voilà.
maquillage. Et puis Mystique, quand elle est maquillée, clairement, elle est vraiment peu maquillée par rapport à avant. Parce que c'était contraignant. Ce que je comprends, hein, enfin, on peut le comprendre tout à fait. Mais en même temps, bah, t'as signé pour ça. Puis enfin, voilà, c'est. Puis d'ailleurs, le fauve, maintenant, c'est bon. Hein, il peut se métamorphoser à volonté. Il n'y a plus de problème de sérum, de je sais pas quoi. C'est sans doute. Ça a été réglé dans l'intervalle. Bon, soit, mais on s'embarrasse plus en fait de détails. Vraiment, il y a plein de choses comme ça
Oui.
où. Bon, c'est comme ça maintenant. Et puis voilà.
Oui.
Alors, je voulais dire que j'avais envie d'ouvrir une parenthèse. Enfin, une autre. C'était justement une qui concernait le fauve. Puisque cette semaine. On a eu la révélation qu'un script sur un film dédié aux fauves avait été développé. C'est un certain Byron Burton, alors c'était l'assistant de John Ottman sur Days of Future Past. John Ottman, qui est un compositeur qui a fait la musique de certains films X-Men. Il est aussi monteur, assistant réalisateur. En fait, moi je le connaissais comme compositeur. Je crois que c'était X-Men 2, X-Men Days of Future Past. Et peut-être Apocalypse. Mais en fait, le type, il a fait plein de choses. C'est un peu le bras droit de Singer, j'ai l'impression, en me corrigeant en commentaire si je me trompe. Et donc, un de ses assistants à lui avait proposé un spin-off sur le fauve. Un film qui aurait été très inspiré par The Thing de Carpenter. C'est en gros un collègue de Hank qui est atteint d'une mutation similaire. Demande à Hank de l'aide. Hank lui envoie son sérum pour redevenir normal, mais. Les choses ne se passent pas comme elles auraient dû se passer. Il ne répond plus. Et oh là là, il y a des meurtres. Il faut aller voir ce qui se passe. On se doute que le type est devenu un monstre. Bref, toujours est-il que, comme toujours avec les projets avortés, ça a l'air intéressant sur le papier. On ne sait jamais ce que ça aurait donné en vrai. Mais voilà encore un film qui rejoint la liste de tous les spin-offs qui ont été abandonnés. Il était question d'Assure Magneto. Qui est en partie devenu First Class. À un moment donné, on parlait d'un spin-off sur Mystique. Je crois que Alberi poussait pour un
Oui.
spin-off sur Tornade. Enfin, on a eu des spin-offs un peu sur n'importe qui. En même temps, les persos sont quand même tous intéressants, donc pourquoi pas. Voilà, encore un film que je regrette un peu, même si évidemment, on ne sait jamais ce que ce serait devenu au final, quoi. Mais ça montre aussi à quel point, Hoult est aussi devenu un acteur très bankable.
Oui, puisqu'il était, enfin récemment, il était en compétition pour le rôle de Batman, hein, tout simplement, Bruce Wayne, et il a
Oui.
été coiffé sur le poteau par Robert Pattinson.
Oui, Robert Pattinson, que toi et moi on approuve
Ah, mais
d'ailleurs.
totalement. Moi, je trouve que c'est, enfin, à vrai dire, entre Pattinson et Nicolas Hoult, enfin, j'ai même pas trop
Ah
de.
oui.
Je pour suivre un petit peu ce que fait Pattinson sur la scène indé, c'est même pas un débat quoi. Enfin, pour moi.
Ah oui. Puis il faut que les gens arrêtent de penser que Pattinson égale Twilight. Twilight, c'était il y a un. Le dernier, c'était il y a peut-être moins de 10 ans, mais bon, c'était il y a un moment. Il a fait plein d'autres films à côté et depuis. Pattinson, c'est plus que ça, quoi.
Pattinson est dans la position de Bale quand il est avant Begins. Bale, il a pas non plus fait, enfin, je veux dire, il avait fait le machiniste, mais
Et le règne du feu.
Voilà, le règne du feu, il était dans Shaft. Alors bon, dans Shaft.
Celui avec Samuel Jackson, donc.
C'était le méchant, en fait.
D'accord. Bah, d'ailleurs, je fais une petite news ciné, allez, on se retrouve, on y va. Il y a un nouveau Shaft qui doit sortir, avec toujours Samuel Jackson dans le rôle du neveu de Shaft, mais il y aurait aussi le fils de Jackson et le Shaft originel, c'est Robert Rountree, c'est
Je
ça
crois, oui, quelque chose comme ça.
l'acteur? Ça, c'est Rountree, le nom de famille qui avait fait deux ou trois films Shaft dans les années 70. Je crois que le premier en français s'intitule Les Nuits chaudes de Harlem, quelque chose comme ça. Bref, on doit avoir un Shaft avec trois générations. Le film vient de se bananer aux États-Unis et il sortira directement chez nous sur Netflix dans quelques mois.
Voilà.
Ça augure rien de bon pour le film, mais Samuel Jackson dans de la Blaxploitation, c'est toujours bon à prendre, donc j'irai y jeter un œil. En général, il s'éclate bien dans ce genre de projet. Bien, on revient aux X-Men et on revient non pas aux années 70 comme Shaft, mais aux années 90. Comme on le disait, X-Men se passe en 92. On fait tout de suite le point chronologie ou pas?
Écoute,
Parce que.
ouais, franchement, c'est plus
Ouais,
simple.
allons-y. Oui, parce que donc, depuis First Class, il s'est donc passé 30 ans, vu que First Class se passe en 62, au moment de la crise des missiles. Dès le suivant, je crois qu'il se passe en 73, Days of Future Past, là déjà, au niveau des âges des personnages, ça va plus trop. Alors j'ai chopé une chrono officielle, je crois que c'est la chrono qui était sortie au moment de Days of Future Past, dans l'univers ciné. Magneto est censé être né en 1930, Xavier est censé être né en 1932. Donc là, ils ont respectivement 60 et 62 ans. Ça ne marche pas. Il n'y a aucun effort qui est fait là-dessus. Surtout quand on voit la tête qu'ils auront plus tard. Alors, je sais que les films X-Men 1, 2, 3 se passent maintenant dans une timeline à part. Mais timeline à part ou pas, au même moment du temps, ils sont censés vieillir pareil. Eh ben non, enfin 10-15 ans plus tard, ils ne peuvent pas ressembler
C'est
à Patrick
impossible.
Stewart et à. Ouais, et surtout à Ian McKellen, quoi.
Oui.
Ça va pas du tout. Enfin, à la limite, que ce soit compliqué, moi je veux bien, hein, mais. Je sais pas, faites un effort, vieillissez-les. Pour le fauve, et puis pour le fauve, pareil, hein, le fauve, il est censé avoir, je sais pas, 49, 50 ans à ce moment-là. Il a genre 10 ans, 10, 12 ans de moins que Xavier.
Jennifer Lawrence, c'est plus belle que jamais.
Oui, bah, Jennifer Lawrence, à la limite mystique, voilà, elle se
Ouais,
métamorphose, mais
à
je sais
la
pas pour le
rigueur,
fauve.
ouais. Mais le faux, oui, y a aucun effort pour tous les acteurs. Hein. Fassbender, dans ce film, fait limite plus jeune que dans First Class, quoi. Enfin.
Oui. Alors, Fassbender, en plus, déjà dans le premier film, on se disait, mais il a combien d'âge de différence avec son frère qui avait déjà presque 20 ans en 62. Déjà là,
Ouais.
c'était très space. Non, ce que je veux dire juste pour le fauve, c'est à la limite le fauve, je sais pas, on peut dire que c'est un effet secondaire de ses
Oui.
pouvoirs, que je sais pas quoi, mais bref, hein, il y a vraiment aucun effort du tout qui est fait. Et alors, bon, Magneto, c'est un festival de nouveau. Hein. Fassbender, ça se voyait qu'il se faisait chier dans
Oui,
l'Apocalypse.
oui.
Déjà, dans Days of Future Past, c'était bizarre. On se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Il était super motivé dans First Class, où il était taciturne, mais il se donnait, quoi. Déjà, dans Days of Future Past, c'est bizarre. Il n'est pas content, ça va pas, il était malade. Enfin, dans Apocalypse, il s'embête, vraiment. Hein. C'est en même temps, vu les absurdités qu'on lui fait faire, je comprends. Et là, il essaie même plus,
Bah,
quoi.
franchement, dès Apocalypse, il est en roue libre, quoi. Et quelque part, je le comprends un peu parce que on a l'impression qu'on le fait plus revenir pour être sur l'affiche,
Tout à fait.
parce que je pense que, enfin, lui est au moins autant, si ce n'est plus bankable que Jennifer Lawrence, hein.
Moins depuis qu'il a joué de la flûte dans Alien Covenant,
Oui,
mais
oui.
il prend un tour, sa carrière prend un
Mais
tour très
Jennifer
bizarre à
Lawrence, tu vois,
Fassbender.
pour qui ils avaient bâti notamment, je sais plus comment ça s'appelait, Red Sparrow là, qui était une grosse production américaine qui était
Oui,
battue sur elle, bâtie sur elle, qui a pas marché au box-office. Enfin, voilà. Enfin.
Un film pas inintéressant d'ailleurs, hein, où elle donne de sa personne, vraiment, je dis ça sans faire de mauvaises
Non, c'est
blagues
pas.
par rapport à ce
Alors
qui se passe dans le film, parce
c'est
qu'elle
clair que
est.
c'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais c'est pas
Non.
déshonorant non plus. Hein, y a rien à dire. Voilà, c'est.
Ça fait pas tache sur son
Non, non,
CV,
non.
puis elle montre qu'elle peut faire des rôles un peu, j'ai envie de dire, hardcore, quoi.
Voilà, mais par contre, voilà, ça c'est pas forcément très bankable. Et c'est vrai que ramener Fassbender là pour encore une fois, enfin on sent bien que c'est la pièce rajoutée au puzzle, hein, parce que comme dans
Oui,
Apocalypse,
et qu'il faut mettre Magneto parce que dans un film X-Men, tu mets Magneto.
dans Apocalypse, on le voit avec un tout nouveau statu quo, c'est-à-dire en gros, il a une famille, tout ça, et puis finalement, on lui zappe sa famille et Apocalypse, bah, le tourne, voilà, le tourne méchant, enfin le tourne heel, comme on dira au catch. Mais et là, c'est un peu pareil pratiquement, quoi. C'est-à-dire qu'on le voit sur Alors c'est pas mal, hein, on le voit avec Genosha, quoi, sa nouvelle.
Oui, alors c'est pas dit dans le texte, enfin c'est pas dit dans les dialogues, mais ça se voit dans ce fameux générique qui donne toujours des choses qu'on voit pas dans les films X-Men. Il y a toujours des
Voilà.
pseudonymes ou des noms qu'on a que au générique, et on voit qu'il y a des personnages qui sont appelés comme garde de Genosha. Donc c'est officiellement Genosha, l'île que le gouvernement lui a donnée. Et c'est là où tu te dis, mais il manque tout un film. J'aurais voulu voir moi ce film de Magneto. Ben, quelque part, tu vois que en plus il y a quelque chose d'intéressant. C'est que il n'a pas tellement trouvé la paix que ça. Autant dans le précédent, il avait trouvé l'appel à une famille. Là, je me suis dit, oh non, ils nous refont le coup du Magneto apaisé qui doit encore repartir en guerre. Mais quand les X-Men, les militaires et tout viennent, quand tout le monde vient le voir, il est agacé. C'est vraiment, non, maintenant vous me fichez la paix. Je suis seul et si vous, ça me vénère que vous soyez là, je vais m'énerver quoi. Il y avait quand même un petit effort de fait. Ou alors c'est un cache-misère par rapport à la motivation de Fassbender, on va savoir. Il y avait quand même un petit quelque chose quoi. Le fait que c'est sur Genosha, c'est totalement
Ah
sous-exploité
oui.
et c'est dommage. C'est vraiment dommage.
Et voilà, et bon, même pour Jennifer Lawrence, pareil, pour Xavier, pareil, c'est vrai que bon, il y a un mauvais management, entre guillemets, tes atouts, parce que finalement, bon, bah, si tu as décidé de faire un film centré sur le Phénix, bon, ben, à la limite, vas-y à fond, quoi. Et j'ai presque envie de dire, ben, t'embarrasse pas finalement sur le côté Magneto sur Genosha, quoi, tu vois. Tu peux juste avoir, je sais pas, Xavier qui est en panique. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Et puis il appelle Magneto avec qui il s'était quand même rabiboché à la fin d'X-Men Apocalypse, quoi. Parce que Magneto, on le voit même quand même reconstruire à la fin du film la X-Mansion, quoi. Donc, a
Oui,
priori, si tu veux, c'est bon, quoi. Et le type, il en a fini, quoi. Tu vois, il est du côté Xavier. Donc, c'est pas la peine, si tu veux, de repartir sur un truc encore. Ah ben non, finalement, Magneto, il est en colère, il est si, il veut refaire du meurtre. Enfin, c'est. On perd du temps de film, quoi. C'est ça que je veux dire, quoi.
Magneto, c'est une frustration permanente parce qu'à la fin de First Class, on a droit au costume un peu kitsch, mais les années 60, on nous promet Magneto et la confrérie. Film suivant, il a tué Kennedy, il est en prison, la confrérie, elle est morte. En plus, Matthew Vaughn lui voulait, je crois, montrer la scène de l'assassinat de Kennedy. Ça aurait pu donner un truc intéressant avec Magneto qui maîtrise les balles. Bon, bref, enfin voilà, on nous enlève ça. Entre Days of Future Past et Apocalypse, il va se ranger. Là, à la fin, on ne sait pas trop ce qui se passe. Enfin, on n'a jamais droit, on n'a pas eu droit, en fait, depuis X-Men 1, bon, il y a le 3 et le 3, pardon, depuis X-Men 3. On n'a vraiment pas eu le droit à un Magneto qui dirige une confrérie, qui, tu vois ce que je
Oui.
veux dire? Magneto, à chaque fois, il est plus en grand méchant. Donc, si c'est pour pas l'avoir en grand méchant, ça sert à rien aussi de le ramener à chaque film. Je pense qu'on
Oui.
aurait pu, dans Apocalypse, on aurait peut-être pu s'en passer, en fait, de
Oui, on
Magneto.
aurait pu. Oui, franchement.
Autant là, je comprends hein, que Jean Grey aille le voir, justement,
Oui, ça
c'est
c'est vrai
intéressant.
qu'il a cette expérience-là de bon quand t'es submergé par tes pouvoirs. Finalement, comment t'arrives à réagir? Enfin, tu vois,
Oui.
bon.
Et puis elle est chassée, tout le monde la déteste, elle va voir l'autre
Oui,
pestiféré.
c'est vrai. Alors lui, depuis qu'il est gosse, il est pestiféré, donc.
Oui, ou même que le fauve aille le voir, hein. Je trouve ça logique. Mais par contre, il y a un truc moi, qui me fait hurler, c'est que le fauve lui-même est diagnostique Jean. Ils sont tous d'accord pour dire qu'elle n'est pas vraiment elle-même, que voilà, de un, elle n'est pas vraiment elle-même, et de deux, c'est de toute façon la faute de Xavier, mais le fauve veut quand même l'assassiner. Je me dis, mais attends, non, enfin, qu'il soit vraiment ivre de douleur et tout, je veux bien, mais avec tout ce qu'il a comme connaissance et qu'on connaît justement le personnage qu'il est ou le personnage qu'il est censé être, on se dit, mais justement, il devrait montrer qu'il est meilleur que
Mais
Xavier
oui.
ou que les autres ou que Magneto, et il devrait pas, enfin, Magneto pareil, Magneto qui sait ce
Oui.
que c'est qu'être persécuté alors que tu le mérites pas, et qui d'un coup, visiblement, bah, était toujours fou amoureux de Mystique. Bon, bah,
Oui,
ils ont rien
voilà.
fait depuis First Class ensemble, mais voilà. Je me dis, non, mais les gars, non, là, vous avez loupé quelque chose. Il y avait autre chose à faire.
Surtout
Vous
que
avez.
le fauve a pour le coup, t'as raison, cette discussion avec Xavier. Où il lui dit bah écoute oui c'est ta faute mais je me mets autant dans le sac quoi tu vois
Oui, c'est
j'assume mes
ça.
responsabilités et là quand tu vois cette discussion là moi j'ai pas l'impression de d'un fauve qui est enfin voilà quoi qui est qui va partir sur un côté vindicatif quoi enfin.
Bon, j'ai peut-être une explication, hein. Alors, j'ai pas la liste sous les yeux, mais je pense qu'il y a eu quelques scénaristes qui sont passés dessus. Dans la grande
Ah oui.
tradition, pardon, des films X-Men, on a de nouveau dû avoir de la réécriture sur réécriture, et d'où ces personnages qui, je sais pas, qui sont finalement pas là, qui, par exemple, Quicksilver qui est vite évacué, hein, parce que je sais pas, il savait pas quoi en faire,
Mais
enfin.
déjà, le titre, le film s'appelle Dark Phoenix. On a des bandes-annonces avec, on a l'impression de voir un oiseau enflammé. Là, très sincèrement, on nous présente un peu le phénix comme une forme cosmique, mais on oublie un peu l'oiseau de feu quelque part, tu vois?
Bah, elle le devient à la fin. Bah, finalement, c'est. Alors, voilà comment moi je vois les choses. Hein. Dans l'univers filmique X-Men, le phénix, alors, dans ce film-là, parce qu'en plus, il se retconne d'un
Oui.
film à l'autre, bah, le phénix, c'est une forme, une force cosmique, une espèce de nuage d'énergie ou de flamme. Et c'est Jean Grey, parce que quelqu'un l'a surnommé phénix comme elle a ressuscité, qui à la fin prend la forme d'un oiseau en flamme, tu vois. Je le comprends
Moi, je
comme
l'ai
ça.
vu,
Après.
si tu veux, cette fin-là, et la manière, tu veux, dont ils expriment leur pouvoir, comme, enfin, et ce qu'ils voulaient faire, hein, originellement, avant que soit racheté par la Fox, j'ai l'impression, et ça m'a tilté, ils se sont trompés de titre, parce qu'ils ont appelé ça Dark Phoenix, alors j'ai l'impression que c'était finalement la partie où Jean Grey, tu vois, appréhendait ses pouvoirs, et à la fin, elle aurait vraiment maîtrisé le truc, elle aurait été Phoenix complètement, quoi. Tu vois,
Oui, ça aurait été Phoenix et Dark Phoenix réunis
C'est
ensuite.
ça, ben peut-être, oui, peut-être.
Pourquoi pas, oui. Mais de toute façon, la fin, alors la fin était retournée déjà pour être moins cosmique, parce que visiblement, comme Captain Marvel, alors certains pensent qu'en fait, peut-être que la fin originelle, c'était Jean qui se déchaîne sur des
Voilà, c'est
vaisseaux
ça.
aliens et que ça ressemble trop à Dark Phoenix. Donc on fait ça en bataille dans le train, qui est pas mal. Clairement, moi, la bagarre dans le train, pourquoi pas? Même si la bagarre dans le train, ça faisait
Ben
un petit
ça,
peu.
ça.
Bon, les gars, on a passé mon.
Ça fait un peu scène de milieu de film, quoi, tu vois.
Oui, bah en fait, c'est le moment où chacun montre ses pouvoirs, parce qu'ils n'ont pas eu le
Oui,
temps de tous
voilà.
montrer leurs pouvoirs. Et bah, ouais, il aurait peut-être fallu
Ça
les
fait
montrer
quand
un
même
peu
pas
plus tôt.
climax, tu vois, de bah, ton dernier film, quoi,
Oui.
tu vois. Ça fait pas ça. Ouais.
Soit milieu de film, soit préparation de la
Ou j'ai
grosse
même te
bataille.
dire
Mais.
scène d'intro, quoi.
Alors justement, bon, tiens, revenons à la scène d'intro, on reviendra sur ça ensuite, et notamment sur les aliens ou les personnages. Bah, la scène d'intro, elle m'a mis dedans, et c'est
Oui,
peut-être la scène que j'ai
la scène
préférée de tout le
d'intro,
film.
donc oui, avec la navette, finalement, le sauvetage en navette
Oui.
spatiale, effectivement, je trouve est très très bien réussi, ouais.
C'est vraiment, alors, bon, c'est un peu surprenant, maintenant les X-Men, dans cette continuité-là, on finit par gagner la confiance des gens. Il y a Xavier à une ligne directe avec le président. Ça fait vraiment le président russe et le président
Batman
américain.
66.
Oui, Batman 70, où c'est la ligne de téléphone rouge entre Moscou et Washington. Mais ici, le président qui a sa confiance et puis qui après il la perd. Enfin, c'est assez simpliste, mais pourquoi pas. Et Xavier est très calme, très bien, on y va. Il envoie ses X-Men. Enfin, la mission est intéressante. Vraiment, c'est pas mal du tout. Même si, encore une fois, ça reste quand même très. Le traitement du fait qu'il soit dans l'espace est assez léger. Hein. Au Diablo qui va dans l'espace sans mettre de gants, enfin, je chipote sur des détails,
Ouais,
mais
ouais, ouais, ouais.
quand même, je sais pas, mettez des gants. Enfin.
Ou Quicksilver qui lui fait un espèce
Oui.
de
Ça,
scaphandre
je peux l'accepter, tu vois, mais au moins, mets-lui des gants. Enfin, bon, je chipote. Mais bref,
Ouais.
la première scène est pas mal. La musique, d'ailleurs, de. Alors, je le vois à la fin, je sais pas, c'était Hans Zimmer. Et
Sans
justement, le
Zimmer,
début, je me dis, ah, purée, elle est pas mal, la musique, elle est assez oppressante. Et elle me faisait beaucoup, beaucoup penser à.
ouais. La Gravity?
Alors, j'ai jamais vu Gravity, figure-toi. Je l'ai loupé au ciné et j'ai pas envie de le voir à la maison. J'attends. Je sais qu'il repassera au ciné un
Oh,
jour.
c'est un film à voir au cinéma, sinon ça n'a
Oui, je
aucun
sais que
intérêt.
c'est le genre
Hein.
de film, notamment bah, sur Paris, comme j'ai l'occasion d'aller souvent sur Paris, je sais que je pourrais le revoir un jour. Non, ça me faisait penser à Dunkerque. La musique dans Dunkerque qui est assez oppressante, assez
Oui,
répétitive,
bah
lancinante comme ça.
oui.
Et
Bah John Zimmer,
bah,
hein.
le Hans Zimmer nouveau, hein, parce que pendant 10 ans, il nous a fait de la corne de brume à tous les étages. Là maintenant, c'est cette musique répétitive oppressante. Il est dans une nouvelle phase. C'est le Hans Zimmer fin des années 2010, là. Il a muté. Par contre, je suis en train de me demander si Hans Zimmer, il n'a pas juste pris ses chutes des films précédents pour faire la musique de Dark Phoenix. Il n'a pas eu envie de s'embêter, c'est peut-être ça. Toujours est-il que ouais, la première scène, elle est pas mal maîtrisée. Alors pour Kinberg, donc c'est quand même le premier film, je trouve que c'est pas mal. Et globalement, moi, je trouve qu'il se débrouille bien pour quelqu'un dont c'est vraiment le premier film.
Bah, le premier tiers, c'était plutôt réussi, quoi. En fait, j'ai envie de dire jusqu'à l'apparition des aliens,
Ouais.
quoi. Et en gros, en parallèle, le pétage de câble de Jean Grey, enfin, quand elle. Et là, c'est vrai, ça s'enchaîne avec Jean Grey qui va au Magneto et ainsi de suite, les déboires de Xavier. Et c'est. Ouais. C'est dommage, hein, parce que le début était pas mal du tout,
Ouais.
quoi.
Ah, c'est vrai que les aliens. Alors, que quelque part, que les aliens viennent. Alors, j'ai entendu des gens se plaindre. On dirait Venom qui arrive sur Terre comme Spider-Man 3. Non, bah, les aliens.
Combien de fois on a vu des aliens arriver sur Terre, quoi? Enfin,
Bah, je trouve
c'est.
ça pas. Enfin, moi, ça m'a pas choqué parce que le phénix a détruit leur planète. Ils pistent le phénix. Ils découvrent que le phénix a pris un hôte. Donc, ils viennent sur Terre, ils s'infiltrent. C'est un peu simple, mais c'est pas. C'est efficace. C'est pas besoin de montrer pendant 10 ans les aliens qui discutent entre eux, quoi. Ils vont sur Terre, visiblement ils peuvent se camoufler. Alors en plus, bah, ces aliens, ils ont une origine, vu que c'est le peuple des Dabari. On s'attendait à voir les Shi'ar, ça je pense que c'était une de mes grandes déceptions. Ils sont pas là.
Ben, pendant des mois, on pensait que Jessica Chastain jouait Lilandra, quoi.
Alors Lilandra, puis j'ai vu passer certains qui pensaient que c'était une manifestation du phénix, enfin,
Ouais.
pas du tout. Mais les Dabari, juste pour revenir sur eux, en fait, c'est totalement issu des comics, vu que c'est la race qui est détruite, enfin la planète qui est détruite par Jean Grey quand elle est déjà le phénix, du coup. Enfin, quand le phénix. Alors oui, on sait que dans les comics, c'est pas Jean Grey qui devient le phénix, c'est le phénix qui possède Jean, enfin qui fait un double de Jean Grey, etc. Bon, on va simplifier, on va dire Jean Grey qui est le phénix.
Bah, Jean Grey était déjà le phénix à la fin d'Apocalypse. C'est ça qui est le mini retcon.
J'avais ça, voilà, j'avais oublié de dire ça, de parler de ça aussi, mais attends, on va y revenir juste pour venir sur les Dabari. Donc voilà, dans les comics, c'est le phénix qui, c'est une fois que le phénix possède une Grey, que le phénix va détruire les Dabari. Là,
Voilà.
elle est détruite avant, bon bref, on s'en fout, c'est les films, hein, ils arrangent. Et donc,
Oui.
c'est tiré des films. Et le personnage de Vuk,
Des comics,
des comics,
tu
voilà,
veux dire.
justement. Donc voilà, et le personnage de Vuk, joué par Jessica Chastain, alors dans les comics, c'est un homme, et sais-tu quand est-ce qu'on l'a vu? Il apparaît dans un numéro emblématique des comics.
La vache.
Un numéro
Non, bah
très vieux
non.
des années 60.
Des années
Et
60,
ouais.
quand il... Non,
Et c'est pas dans, c'est pas chez les X-Men, c'est
Ah,
chez une autre équipe.
les Fantastic
Non,
Four?
même pas.
Les Avengers?
Ouais, les Avengers. Et c'est un personnage qui apparaît dans Avengers 4. Et je pense que, oh putain, on dirait vraiment une interro à l'école, quoi. Et qu'est-ce qui se passe dans
Alors
Avengers
là.
4, Jonathan?
Dans Avengers 4, Endgame, tu veux dire?
Non, non, le dessin, le dessin, mais n'importe quoi, le comics.
Ah, je sais pas.
Bah, il y a
Ah,
Captain, bah, c'est le retour de Captain America, Avengers 4 dans les comics.
oh, bon oui, non, mais pour moi, Captain America n'est jamais parti.
Oh, oui, non,
Depuis un centre.
il est toujours resté dans ton cœur. Non, bah, en fait,
Oui.
si vous avez lu Avengers 4, bah, Captain America revient, et puis après, l'épisode n'est pas terrible. Ils affrontent un alien qui se déguise en humain, et ben, cet alien, c'est Vuk. C'est. Ouais.
D'accord,
Et
ouais.
on voit d'ailleurs, on voit dans le film que les aliens, ils se métamorphosent pas tout à fait, mais ils ont l'air d'être recouverts de la peau des humains plutôt. Ce qui donne des plans assez sympas, quoi. Ils se font tirer dessus avec la peau qui se décolle. Et il y a un effet un peu comme dans V où on voit les aliens en dessous. Bah, c'est tiré de cet épisode-là où on découvre qu'ils ont des déguisements sophistiqués d'humains.
Enfin, dans les rumeurs, quand ils disaient qu'ils ont refait des trucs du film, des scènes du film parce que c'était trop proche de Captain Marvel, il y a aussi le fait que apparemment les Skrulls étaient prévus pour le film, quoi, à un moment donné.
Ah,
Donc,
peut-être même que c'était prévu que ce soit les Skrulls à la base, avant que Marvel leur dame le pion, je sais
bah il y
pas.
a le côté, comment on appelle ça, de changement de peau, quoi, enfin
Oui,
changement
ouais.
de.
Bah, après, comme je te dis, les Dabari ont déjà des capacités de camouflage, genre c'est plutôt des déguisements dans les comics, ils sont liés au Phénix, donc bah, peut-être qu'on aurait eu des Skrulls et d'autres races pour, je sais pas, un procès de Jean Grey tout à la fin, ou plein de races qui viennent, dont les Shi'ar qui viennent juger la Terre, enfin on aurait pu. Bon là, on est dans nos fantasmes de lecteurs qui auraient aimé voir certaines choses, quoi, mais ça aurait pas été étonnant, quoi. Hein. Et d'ailleurs, ce qui aurait été pas mal. Alors là, voilà, je projette totalement ce que j'aurais aimé voir, hein. Mais peut-être que ben, dès le début, il y ait ces aliens qui viennent et que ce soit que la première moitié du film, puis que la garde impériale arrive ou que les X-Men soient transportés chez les Shi'ar, enfin qu'on parle plutôt qu'on ait Magneto et compagnie, qu'on se retrouve avec plutôt quelque chose de ce genre-là, quoi. Quelque chose de plus proche des comics.
Il fallait, enfin, surtout, il fallait absolument se détacher de la stand.
Oui.
Et donc, quitte à réintroduire le concept du phénix, il fallait que ça devienne cosmique, quoi.
Ouais. Oui.
Voilà, il fallait y aller. Là, fallait y aller franco, quoi. Donc,
Et puis,
alors, ouais.
ouais, comme tu disais, en plus, le phénix, il y a plein de choses par accord parce que à la fin d'Apocalypse, Jean
Mais
Grey
oui.
semble déjà avoir le phénix en elle.
Ah ben c'est pas explicité, mais en tout cas on voit bien l'oiseau de feu. Enfin
Oui.
l'oiseau de feu, en tout cas on voit des flammes autour d'elle très clairement.
Et tu sais ce que ça me rappelle, sœur?
Ben la fin d'X-Men 2.
Oui, où on a un oiseau en flamme, et dans X-Men 3, il n'y a plus les flammes.
Et dans X-Men 2, en plus, c'est joliment présenté parce que c'est présenté comme son évolution, quoi, en fait. Que après, enfin, que dans le Gen X, il y a encore une autre forme d'évolution et du coup, clairement, on voit l'oiseau de feu,
Oui,
hein,
à la fin, dans le
c'est
lac,
ça.
ouais, dans l'eau, en plus, ça rappelle bah, la renaissance de Jean Grey qui sort de l'eau, qui est devenue le phénix.
Voilà.
Et d'ailleurs, il y avait quelqu'un sur YouTube qui, quand X-Men 3 est sorti, s'était amusé à reprendre les scènes où Jean Grey en phénix noir pète les plombs en rajoutant des effets de flammes. Parce que c'était totalement absent. Puis dans X-Men 3, le phénix, c'est juste une seconde personnalité. C'est juste
C'est
bah,
ça.
Jean Grey qui pète les plombs.
Ça n'a aucun sens, ouais.
Bon, pourquoi pas, mais ça colle pas
Faut
avec la
pas
fin
l'appeler
du
Phoenix,
2.
quoi. L'appelle pas Phoenix. Oui, c'est pas raccord avec le 2, de toute
Oui, c'est
façon.
pas raccord avec le 2. Et puis là, dans le 3, pareil. Enfin, bon, du coup, comme c'est quelqu'un d'autre, enfin, ça, qui la surnomme Phoenix, c'est raccord quand même avec le 3 ou celle qui invente le nom Phoenix. Et le Phoenix, c'est pas déjà le nom de la force. Mais bon, bref, hein, ouais, y a des pro en fait, les problèmes des films X-Men, c'est que même entre eux, ça se suit plus. Et là, surtout la fin, bah, on a une nouvelle timeline, en fait. Vu que ça devient la Jean Grey School, Jean Grey n'est plus là, Xavier
Oui,
part.
ça pose problème avec Days of Future Past. Hein.
Oui, bah à moins que Jean Grey ressuscite par la suite, parce qu'elle n'est pas vraiment morte, elle a fusionné avec le Phénix, donc c'est pas impossible que Jean Grey ressuscite par la suite, que Xavier retrouve sa place à l'Institut, qui sort de sa retraite. Moi, là, je fais un raisonnement tiré par les cheveux, hein, mais c'est plausible en fait.
Bah, écoute, de toute façon, on l'a pas vue morte, hein.
Oui.
On l'a vu entre guillemets exploser, mais on a aussi vu un oiseau de feu qui peut, si tu veux, signifier une réincarnation,
Oui.
quoi. Le phénix qui renaît de ses cendres, et c'est là vraiment qu'elle devient le phénix. Bon.
Mais qui sait, comme ils avaient prévu d'autres films, alors comme ils avaient prévu d'autres films, peut-être que de 1, c'était pas prévu qu'elle meure, et ils ont retourné cette fin, et ils se sont dit, bon, bah, de toute façon, on s'en fiche, il n'y aura plus de film, autant faire une espèce de fin ouverte heureuse. Ou alors, ils comptaient peut-être la faire revenir ensuite, Xavier allait peut-être revenir aux affaires ensuite. Enfin, avec un film supplémentaire, tu peux raccrocher les wagons, soit avec la fin de Days of Future Past, soit avec, pourquoi pas, la continuité de Logan, tu vois. C'est pas impossible non plus. Même si tu comprends pas pourquoi ça a dit. Parce qu'il n'y a rien qui justifie que ça ait bifurqué de la fin qu'on nous montre à la fin de Days of Future Past.
Mais Ty Sheridan, enfin, donc l'acteur qui joue Cyclope, a révélé que, enfin, donc, à la fin originelle, hein, Jean devait affronter les Skrulls. Enfin, on s'imagine bien les Skrulls ou les Barry. Enfin,
Ouais, les méchants,
lui, il
quoi.
appelle ça. Lui, il a dit les Skrulls, mais
Ouais.
donc les méchants dans l'espace, hein, donc détruire, bah voilà, des vaisseaux. Et que, ben, elle aurait fait avant, tu vois, un adieu à Charles et Scott, quoi. Et ça devait être la fin, donc tu vois, c'était peut-être aussi avant que entre guillemets ce soit racheté par la Fox, avant qu'il y ait Captain Marvel, tout ça, voilà, ça devait peut-être pas forcément être un film qui aurait été la mort de Jean Grey, mais simplement la présentation un petit peu de ses pouvoirs, et puis on aurait construit derrière, quoi, tu vois, sur plusieurs autres films, quoi.
Peut-être, bon, on le saura jamais. Ils finiront par nous dire ce qu'ils avaient sans doute envie de faire, mais ce qui ne veut pas dire que ça serait fait non plus. Mais tout est possible. Après, ça fait une jolie fin à la limite avec le fauve qui prend la place de Xavier et Xavier qui finit ses jours à Paris.
Oui.
Et là, je te laisse décrire cette scène magnifique. Je sais qu'elle t'a beaucoup
Ben oui,
plu.
puisque alors on a quand même, alors c'est assez ironique parce qu'on a Magneto qui dans le film dit à Xavier, arrête avec tes vieux amis, ça suffit maintenant, et puis qui justement va donc retrouve Xavier à Paris, donc devant un café parisien, et lui dit, tiens, salut, old friend, voilà, donc il lui dit ça, et donc ils se mettent à discuter. Là, je me disais, tiens, bon, on a bien compris que Xavier était parti un petit peu des X-Men, et je pensais que Magneto allait lui faire, tu vois, une proposition genre, bon, viens avec moi, qu'on aille un peu repêcher les mutants pour Genosha et choses comme ça.
Ouais.
Bon, finalement, ils ont juste fait une petite partie de, enfin, ils ont lancé une partie d'échecs, hein, pour être raccord avec toutes ces parties d'échecs qu'on avait entre Xavier
Et
et
Magneto, oui.
Magneto dans les trois premiers X-Men, en tout cas les deux
Deux
premiers sûrs, enfin.
premiers, le troisième
De premier,
Magneto est tout seul, fait bouger
il
une
joue avec tout
pièce.
seul, ouais.
Et je me demande s'il n'y a pas des échecs dans Days of Future Past. Bon, c'est possible, bon, bref, en tout cas,
Dans
renvoie à ça.
First
Ah,
Class, tiens.
peut-être, oui.
Et le café, en l'occurrence, où ils sont, donc ce café parisien, s'appelle le Vieux Copain, donc voilà.
Non, le café des vieux copains, je crois.
Le café des vieux
Oui.
copains, ouais.
Et qui est
Donc,
situé à Rue de la Paix.
Voilà, donc c'est bon, c'est un joli clin d'œil, on va dire.
Oui, bon,
Ça mange pas de pain.
c'est rigolo, oui, pourquoi pas. Puis ça leur
Pas,
fait.
et puis en plus, enfin, le café vieux copain, faut vraiment, si tu veux, avoir l'œil sur le, parce que de la manière dont c'est fini, faut vraiment regarder la devanture. Tu le vois pas, enfin tu. Ouais, si t'es attentif à ce qui se passe entre Magneto et Xavier, tu le vois pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment sur la caméra qui s'en va à la fin, tu vois, qui fait un travelling extérieur. Enfin, bon, c'est comme ça que tu le vois, quoi. Enfin, c'est.
Ouais.
Bref.
Et puis, pas Xavier, mais Magneto, qui encore une fois a l'air apaisé. C'est à n'y rien comprendre. Là, il a l'air content, Magneto, il a l'air d'aller bien. Il a l'air d'aller mieux que Charles. Alors que.
Oui, c'est alors que bon, je veux dire, il a quand même perdu Selene,
Oui.
qui est morte, avec qui il avait l'air
Ah,
d'avoir une
bah, tiens,
relation.
faisant point, on introduit encore une fois des mutants hommes de main qu'on nomme pas ou à peine et qui servent à rien et qui ne ressemblent pas aux personnages des comics. Alors ça, c'est une grande habitude des films X-Men, c'est les hommes de main, notamment ceux de Magneto. Ben, il y en a plein, on les nomme pas toujours. Je pense notamment à X-Men 3 où il y en a plein, plein. Et ils ressemblent souvent pas du tout aux versions des comics. Donc on a, alors, ils disent Selene dans la VF. Moi, j'ai toujours dit Selene. Bon, c'est peut-être Selene qui est, ben, Selene normalement.
Sélénée,
Oui, c'est la reine noire du club de damnés, une mutante immortelle, blablabla, qui absorbe l'énergie, je crois, ou quelque chose comme ça. Là, je sais plus, elle est quoi? Elle est très forte, non? Ou je sais plus. Elle est quoi
ben,
déjà?
elle est télépathe.
Non, elle est télépathe, ouais.
Il me semble, ben, comme dans les comics, hein,
Ah
elle
oui,
a
dans les.
une forme de télépathie, hein.
Bon, j'ai rien dit, oui, c'est vrai que dans les comics.
Ben, elle a plusieurs pouvoirs parce que bon, elle est télépathe, elle a de la télékinésie, elle a un peu un côté vampire aussi parce qu'elle
Oui, il y
absorbe
en a.
l'énergie des autres. Enfin bon, mais il y a de la télépathie, oui, quand même.
Oui, et puis on a. Alors déjà, elle m'a rappelé un peu Callisto dans X-Men 3, qui n'était absolument pas Callisto, qui n'avait pas le même look, qui avait même pas du tout les mêmes pouvoirs, elle était super rapide, je crois, dans X-Men 3. Et on a un deuxième homme de main qui n'est pas nommé. Je crois pas qu'il est nommé. En tout cas, on ne donne pas son nom de code. C'est donc un homme de main dont le pouvoir, c'est d'avoir des dreadlocks coupantes extensives. Enfin, ouais, pourquoi pas. Est-ce que tu sais qui est censé être ce personnage?
Alors là, franchement, aucune idée, quoi.
Eh
On
ben,
aurait dit. Ouais, vas-y, vas-y.
c'est un certain Ariki dans le film. C'est censé être Red Lotus. Est-ce que tu te rappelles de Red Lotus?
Alors, vaguement de nom, mais après, je sais plus trop, ouais. Non, vas-y, dis-moi,
Eh
c'est.
ben, c'est un personnage introduit dans Extreme X-Men. C'est un humain très fort en kung-fu. C'était au Claremont, c'était la vieille marotte de Claremont de vouloir à tout prix mettre des humains normaux. Bon, même si là, le mec était super fort en kung-fu ou en karaté, en arts martiaux, je sais plus. Bref, dans les X-Men. Donc voilà, un expert des arts martiaux que Claremont a utilisé dans Extreme X-Men et un peu dans Uncanny ensuite. Et on l'a plus jamais ou quasiment plus jamais revu depuis. Vraiment personnage de quatrième zone dont tout le monde se fiche. Tout le monde s'en fichait quand il a été créé, tout le monde s'en fiche aujourd'hui, et qui a été, bon, voilà, utilisé dans ce film. Alors que pourtant, les acolytes de Genosha, je sais plus, les Clenchstock Brothers, comment ils s'appelaient, il y avait Frenzy, je sais plus comment ils s'appellent, Cargill,
Il y avait Cortez, mais
Cortez, voilà, je cherchais
ouais.
son nom, enfin, tous ces personnages-là que bon, on aurait pu utiliser à ce moment-là, quoi, bah non.
Ouais, mais même, enfin, tu vois, c'est là que tout le subplot avec mini subplot avec Magneto et Genosha, on se rend compte que c'est trop, quoi, dans le film, parce que voilà, on introduit donc des mutants qu'on n'a pas le temps de développer, quoi, tu vois.
Oui.
Et c'est tout le propre, en fait, c'est tout le problème de ce film et de cette franchise en général, c'est que on t'introduit des personnages, mais on prend pas le temps de les développer et du coup de pouvoir permettre au spectateur de s'attacher émotionnellement à eux, quoi, tu
Ouais.
vois.
Mais alors, je pense que, alors, soit pour Selene, soit pour Red Lotus, voire les deux, si ce sont eux les hommes de main, c'est parce que Olivia Moon, qui devait reprendre Psylocke, n'était finalement pas disponible. Elle tournait à ce moment-là The Predator. Alors, je sais pas si c'est pour ça ou pas, mais en tout cas, elle était prévue. Et puis, bah, rappelle-toi la fin d'Apocalypse où Psylocke, qui est méchante, s'en va en jetant un regard. Enfin, je reviendrai me venger.
Ben,
Je
c'est ça.
pense qu'elle devait être là et que, bah, comme l'actrice n'était pas disponible, ils ont tout simplement mis d'autres personnages.
Mais je vois pas comment ils auraient pu la réintroduire là, pas en acolyte de
Bon,
Magneto,
si,
en tout
pourquoi
cas,
pas.
quoi.
Bah, il s'est passé 9 ans. Pourquoi
Ah
pas?
oui, ah bah oui, c'est vrai, en 9 ans, il peut. Magneto a le temps de se marier, faire des gosses,
Ouais,
avoir
voilà. Oui.
faire Genosha, donc oui, ils auraient pu se rabibocher,
Et
quoi,
puis,
mais.
autre subplot absolument pas utilisé, c'est à la fin d'Apocalypse, Pietro, où là, clairement, on nous a clairement quasiment, on nous le dit quasiment que son père,
Il
c'est
le
bien
dit, ouais.
Magneto, où il le dit.
Ouais,
Et à la
ouais.
fin, oh, je vais rester avec vous, sous-entendu, mais je m'occuperai du cas Magneto un jour. Bon, ben, il s'en fiche, quoi. Hein. On a
Ben
oublié
oui.
ce plot passé à la trappe.
Il disparaît après, ben écoute, pop pop pop, la scène où, donc, où Jean rejoint son père, il me semble.
Oui, bah il est blessé à ce moment-là, puis on le voit
Voilà.
plus.
C'est ça, donc.
Ou peut-être
Donc
un
en
plan à
fait,
la fin, mais
on ne
on
le voit
voilà.
pas, à partir du moment où Magneto arrive sur le film, on ne le voit plus, quoi.
Oui, pendant le sauvetage spatial, ils lui font vite fait sa scène dans l'espace où il est tellement rapide que tout est ralenti pour lui. Allez, emballé, c'est pesé. Les gens l'ont eu, on peut l'évacuer.
Ouais.
Alors, autre grand absent pourtant annoncé du film, les années 90. Parce que franchement, si on te
Ah
dit pas que
oui.
ça se passe en 92, ben, à part qu'il n'y ait pas de portable, ça pourrait être aujourd'hui. Hein. Ils auraient pu. Franchement, à ce niveau-là, si c'était pour ne rien en faire, même pas, voilà, comme dans Captain Marvel, par exemple, finalement, les années 90 ne servent pas à grand-chose, mais ça donne un cadre rigolo. Voilà, autre point d'ailleurs sur lequel ils ressemblent à Captain Marvel. Ben, je ne sais pas, si vous ne les utilisez pas, autant que le film se passe 2 ans après X-Men Apocalypse, quoi. Au moins, ça aurait été raccord pour les âges, parce que là, ils en font rien du tout, les années 90.
Totalement.
C'est dommage, hein, c'est... Alors,
Mais
y a...
même dans les je dirais dans les costumes, dans ce qu'ils
Oui?
portent, enfin je veux dire, moi je voyais Jean Grey, sincèrement, je vois tout à fait une femme d'aujourd'hui peut s'habiller de la même façon, quoi, tu vois, enfin
Totalement.
je vois pas le côté 90s, quoi,
Ouais?
enfin tu vois, c'est.
Ouais, je suis totalement d'accord. Alors, on a un moment Dazzler qui est là. Alors, Dazzler a son look disco fin 70,
Ben
début
c'est ça,
80.
c'est.
Et ouais, et puis on en avait parlé, mais on avait chatté, je me rappelle. Et puis je te dis, mais en plus, ce qui est terrible dans cette scène, c'est que sa chanson, elle fait très années 2000-2010.
Ah
Son look
oui,
fait 70-80. Donc, c'est pas.
totalement.
Ils auraient pu la réimaginer ben, soit en chanteuse de Rodens des années 90, soit façon Ultimate en chanteuse grunge, mais non. Et en plus, sa scène, alors je la trouve très. Alors, ça, cette scène, je trouve ça un peu bizarre, parce que elle est, alors, elle a vraiment le caméo est gratos, hein, elle est juste là pour être là, et elle chante, et t'arrives pas à savoir si elle chante ou si elle fait du playback, ou enfin, la musique, c'est un peu bizarre, c'est mal fait. C'est. Bon, je chipote encore une fois, hein, mais c'est que c'est tellement mal fait que ça m'a sauté aux yeux, en fait. Mais bon, bref, au moins Dazzler, bah, on attendait Dazzler. Parmi les personnages qui sont jamais apparus, c'est bon, Dazzler est apparu. Au final, ils auront fait le tour de quasiment tous les personnages. Si tu rajoutes des séries comme Légion, ou bien comme. S'appelle comment cette série qui est pas mal, mais que j'ai pas poursuivi.
The
Voilà. Oui, bah, dans The Gifted, alors, bon,
Il y a
mini-spoil si vous avez.
Polaris, il y a.
Ouais, il y a Polaris. Il y a le personnage de Sage, ou Sage, qui est dedans,
Ouais.
visiblement. Il y a qui? Il y a Polaris, il y a Thunderbird, ou son frère. Non, son frère est dans Days of Future Past, il y a Thunderbird. Je crois que dans Légion, ben dans Légion, il y a le Shadow King. Enfin, avec ces séries,
Oui.
on a vraiment les. Voilà. Alors, à moins qu'il apparaisse dans une de ces séries, je crois que le seul X-Men d'importance, entre guillemets, jamais apparu, ben, ça doit être Forge, je pense.
Bah Gambit.
Gambit était dans Wolverine.
Ah oui, c'est vrai. Origins. Ouais, c'est vrai, c'est
Vraiment,
vrai.
dans les X-Men secondaires, voire tertiaires, bah, si on va pas
Bah
chercher dans
y a
les...
chez les
Dans...
méchants, il y a Sinistre
Oui,
éventuellement.
bah, ah bah, voilà, tu me fais un pont vers un point que j'allais oublier, c'est... Mais moi, j'attends les Sinistres. On nous le tease depuis la fin de Days of Future Past. Je me disais, ça y est...
Days of Future Past ou Apocalypse?
Non, Apocalypse, j'ai dit des bêtises. Apocalypse. On nous tease Sinistre qu'on nous annonce ensuite dans Logan, alors que finalement Logan, où il y a pourtant Caliban, bah, on nous dit que bah, non, James Mangold, justement, il a écrit son film dans son coin, sinon il n'y aurait pas eu Caliban chez lui parce qu'il ne savait pas qu'il était dans l'autre, enfin il n'en a rien à fiche de
Ouais,
tout
voilà.
ce qui se passe ailleurs. Alors les rumeurs veulent que Sinistre soit dans New Mutants, si tant soit que New Mutants soit dans la même continuité, mais bon, c'est vrai qu'au niveau des grands méchants, le grand absent pour moi, bah, c'est Sinistre, comme pour toi j'ai l'impression, c'est vraiment... C'est le seul que je vois des grands absents.
Bah disons que c'est le, tu vois, je pense que c'est paradoxalement, je pense que c'est un méchant qui est plus facile à adapter par exemple par rapport à un apocalypse, quoi, tu vois.
Oui, complètement.
Surtout quand en plus tu prends pas le temps de développer Apocalypse, quoi. Tu prends pas le temps sur plusieurs
Non.
films, quoi. Donc
Non, non. Bon, en même temps, Apocalypse, voilà, grand méchant biblique, c'est posé. Et puis Sinistre, surtout, tu peux l'utiliser sans Apocalypse. J'avais entendu, bah, à l'époque, je m'étais fait spoiler le fait qu'il y avait une mention à Sinistre dans le film parce que je ne l'avais pas vu et quelqu'un ironisait sur le fait que, ah, oh, ils vont nous faire un Sinistre sans Apocalypse, comment tu peux faire ça? Ce à quoi j'ai envie de lui répondre. Ben, c'est un film, s'ils ont décidé que Sinistre n'est pas lié à Apocalypse, ils peuvent le faire. Et d'ailleurs, tu peux très bien faire Sinistre, ça fait des années qu'il fonctionne sans Apocalypse, tu peux très bien le faire à part, quoi.
L'essence du Sinistre, c'est pas,
Oui, enfin.
enfin, c'est son obsession, si tu veux, avec le Gen X, avec le gène des Summers,
Avec la famille
mais
Summers, ouais. Et
voilà,
même,
mais
même juste le Gen X, quoi. Si, ce soit ni
oui,
les Summers ni les Greer, enfin,
c'est pas forcément, si tu veux, sa relation avec avec Apocalypse, quoi. Oui,
Oui, voilà, ouais.
c'est un peu le Faust d'Apocalypse, ou
Oui.
Mephisto, si tu veux, mais bon.
Bah, Apocalypse, c'est un peu comme une ligne droite et Sinistre, c'est une espèce de ligne qui vivote autour, qui fait des courbes, qui revient, qui repart. Enfin, mais Sinistre peut très bien vivre de son côté sans Apocalypse ou même sans les Summers, en fait.
Puis on n'a pas
Alors,
besoin de ses origines, quoi.
oui,
Voilà.
t'as pas besoin. Enfin, il suffit de dire que c'est soit un mutant, soit un humain qui s'est muté lui-même. Et puis en plus, dans Apocalypse, on peut très bien imaginer que Sinistre, c'est un humain. Ça y est, je fais de la fanfiction, mais un humain qui récupère des gènes d'Apocalypse, la technologie d'Apocalypse, et qui se mute seul, mais c'est quand même lié à Apocalypse, tu vois ce que je veux dire? Enfin, bon, bref, toujours est-il que oui, bah, au final, si on fait le bilan un peu de tous ces films, les gros, enfin, si on va dans les personnages secondaires, voire tertiaires, bah, ceux qui ne sont pas apparus, ouais, il y a Forge, il y a Apocalypse, il y a quand même la plupart des persos emblématiques qui sont apparus. Si on ne va pas dans le X-Force, New Mutants, X-Factor, où là, bon, il y aurait peut-être encore d'autres persos, mais. Sur vraiment que sur les X-Men, ils sont à peu près tous venus à un moment ou à un
Oui.
autre, quoi. Alors certains sont vraiment des micro-caméos, quoi. Par exemple, j'ai découvert il y a quelque temps que t'as le Vanisher, a priori, dans le décor, dans X-Men 3, bon, soit. Là, d'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu, mais je crois apercevoir Quentin Quire à la fin.
Oula.
Tu l'as vu ou pas?
Non.
Quand
Non, non.
quand on voit la plaque Jean Grey School, puis on
Ouais.
a un plan sur les élèves dedans, ah, tu vois un élève de dos qui a la coupe de cheveux
Ah
mauve.
oui, bah oui, avec la crête rose un peu.
Oui, voilà, ouais, je crois qu'on croit déceler des lunettes. Là, j'exagère peut-être, mais bon, en tout cas, je me suis dit, ouais, ça doit être Quentin Quire, quoi. C'est.
Ouais.
Oh, mais je suis bête, on parle d'Alien et puis aussi de la Force Phénix. À ce moment-là, je pense
Ah
à
oui.
Rachel et à Longshot aussi, dans les personnages qu'on n'a jamais eus dans les films. D'ailleurs, Rachel, elle, on ne la voit jamais dans aucun des dérivés des X-Men, que ce soit ben, dans les films ou même dans les dessins animés. Il ne me semble pas qu'elle soit ne serait-ce même apparue en caméo dans les dessins animés. Même pas dans celui-là de 92. Bon, c'est un personnage en même temps assez complexe à introduire quand on a déjà et Bishop, qui souvent est affilié à Days of Future Past dans les différentes adaptations, un peu à la place de Rachel, et Cable, qui joue déjà le rôle du fils de Jean Grey et Cyclope venu d'un futur. Ah, puis il y a Ned Gray aussi dans ce cas-là. Ouais, ça fait beaucoup, beaucoup de personnages complexes qu'on a déjà Cable. Et puis bon, bah, Longshot, lui, c'est en quelque sorte un alien, vu qu'il vient d'une planète dans une autre dimension. C'est jamais très, très clair, le Mojoverse. Même si on a eu Shatterstar dans Deadpool, mais bon, Shatterstar était un peu là pour la blague et les films Deadpool, c'est un peu à part. D'ailleurs, ça me fait penser dans la critique, on l'a pas dit, mais personne n'est étonné de voir des aliens finalement, alors que dans la franchise X-Men jusque-là, il n'y a jamais eu d'aliens, il n'a jamais été question que les extraterrestres existent. C'est un peu surprenant ce point-là. Peut-être encore une fois une facilité qui est victime des réécritures, des remontages, tout ça, quoi.
Ouais.
Enfin voilà, toujours est-il que, bah, au niveau des regrets, alors Storm, ils essaient un peu de la développer, de montrer que elle a des capacités de leader, mais elle reste très
Oui,
secondaire.
on n'y croit pas quand même.
Ouais, puis elle a jamais.
C'est elle a pas enfin, elle a pas le temps, quoi, de toute façon.
Oui, voilà. Ouais. Et
Il y
puis
a, y a...
ben, et puis Diablo aussi, hein, laissé de côté, on s'en
Ouais.
fiche. Au moins, il avait un rôle dans X-Men 2. Storm, ça restera la grande oubliée de la saga.
Ouais, bah enfin la grande oubliée, enfin j'ai même envie de te dire Cyclope, hein, aussi.
Cyclope, oui. Mais encore que, au moins Cyclope avec Apocalypse et celui-là, on le
Ouais,
sait quand
c'est
même.
très très léger, quoi,
Et
c'est
il est à
très
la fin
léger.
de Wolverine, ça reste léger, mais bah les deux, bah déjà les deux, quand ils sont leaders, enfin faudrait.
Bah, tu
devrais
peux
pas
pas
les mettre
avoir les deux en
ensemble.
même temps. Ouais. Et Cyclope, là, je trouve qu'il y a quand même une. Alors, bon, il y a quand même une erreur de casting. Alors l'acteur, je dis pas, hein, Ty Sheridan, c'est pas un mauvais acteur, c'est pas ce que je veux dire. Moi, sa prestation m'a pas choqué, quoi. C'est juste que, pour moi, il est trop petit, quoi. Voilà. C'est
Ouais.
vraiment. Alors, c'est pas le côté Cyclope et surnommé Slim dans les comics, tout ça, tout ça. C'est juste par rapport, notamment, à Sophie Turner, quoi, tu vois. Le
Oui.
côté et le côté du reste de l'équipe, quoi, en général, tu vois, c'est vrai qu'il fait petit garçon, quoi, alors qu'il est censé avoir, et c'est pas de sa faute, hein, il fait 1m71, bon, mais voilà, mais il fait petit garçon alors qu'il est censé avoir 24-25 ans dans Dark Phoenix, quoi, tu vois, et
Ouais, je
donc
crois que sur
déjà
60 en
être
25 ans, quelque chose comme
voilà,
ça, ouais.
et ça, pour moi, c'est vraiment une erreur de casting, quoi, tu vois, je pense que malheureusement, ouais, il aurait fallu un type plus grand, quoi, parce que du coup, le côté leadership, forcément, c'est un ressort plus facilement, quoi, tu vois. Surtout avec un personnage où tu vois pas les yeux, quoi, tu vois. Donc, pour avoir des expressions un peu faciales, tu vois,
Ah bah il est
c'est
raccord avec comment il s'appelait l'acteur qui le jouait dans X-Men 1 à
James
3?
Marsden,
Oui, James Marsden,
Marsden.
Madsen, non, oui. Enfin, il est raccord,
Marsden,
hein. Ils sont tous les deux insipides et tu ne vois que la visière.
c'est
Ces
ça.
acteurs, si James Madsen, j'ai mis des années à retenir sa tête. Et là, Ty Sheridan, je ne vois que la visière.
Et
Ce qui
voilà.
est pas mal parce que justement, c'est un perso qui est handicapé par son pouvoir. Enfin, il y aurait quelque chose à creuser, mais c'est pas fait.
Mais il n'y a pas le temps, quoi. C'est toujours
Oui,
pareil. Il n'y a pas le temps parce
il
que
n'y a pas le temps, oui.
le plot du film, c'est vraiment centré sur Jean Grey et ses problèmes vis-à-vis du Phoenix. Alors j'imagine bien qu'il est censé un petit peu illustrer la période entre guillemets de l'adolescence, le début de l'âge adulte où tu dois un peu te chercher, tout ça, t'es mal dans ta peau et compagnie. Sauf que bon, elle est censée avoir 24-25 ans, quoi, tu vois, ça fait
Ouais.
on est censé on nous laisse entendre que alors je sais pas si ils ont 10 ans de service en tant qu'X-Men, mais ils en ont au moins 5-6, quoi, tu vois. Donc là, si tu veux, elle est mature, quoi. Enfin, bon, c'est compliqué, quoi. Et tu perds. Et finalement, c'est un film qui perd beaucoup, beaucoup trop de temps, quoi. Tu vois,
Ouais.
pour arriver finalement à un climax, tu l'as dit avec la scène du train, qui bien, hein, c'est pas la question, mais qui fait un peu plouf, quoi.
Mais tu vois, moi j'ai apprécié le fait qu'on se perde pas trop dans les subplots,
Oui,
que
ça c'est
vraiment
voilà.
c'est un film assez. Certains n'ont pas eu la même impression que moi, mais pour moi, le côté un peu désespéré, un peu oppressant, je l'ai ressenti par moments. Je trouve que
Il y en a
c'est
qui ont
réussi de ce côté-là.
reproché le fait qu'il y avait qu'un plot dans ce film, c'est-à-dire finalement Jean, le Phénix, et puis
Bah, c'est ce qu'on voulait. Enfin, moi,
ben oui.
ça me va très bien. Et ça qui est assez marrant, c'est que c'est quasiment. En fait, c'est un peu un one-shot. Autant les autres films X-Men, honnêtement, c'est toujours plus ou moins des suites des précédents où il y a tellement de personnages, de subplots, d'intrigues, que c'est compliqué de les regarder séparément, que ce soit les trois premiers ou de First Class à Apocalypse. Je trouve qu'il faut avoir vu quand même les précédents, tu vois, si tu veux vraiment tout comprendre. Là, honnêtement, je trouve que c'est plus accessible. C'est un peu plus one shot, même si ça conclut. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a cette absence un peu quand même de ce plot, de ce côté-là, on a un peu coupé les branches. Ça sert le film dans l'efficacité de l'histoire qu'il veut raconter. Et ça, je ne lui reproche pas, moi. Enfin, j'aurais juste voulu que le subplot sur Magneto soit plus développé, ou alors changé, et peut-être les reproches que j'ai fait avant sur le fauve Xavier de ça, leur réaction un peu exagérée, quoi, enfin un peu incompréhensible par moment, j'aurais aimé que ça soit réglé. Parce que sinon, le film en lui-même, alors, et là, je parle en tant que spectateur, voire en tant que fan des films X-Men. En tant que fan des comics, bah non, évidemment, en tant que fan des comics, je hurle à plein de moments, hein. Je suis déçu, déçu, déçu.
Oui, parce qu'on flingue quand même le Phénix pour la deuxième fois, quoi. Donc c'est quand même
Oui,
dur de
voilà,
s'en
ouais.
relever, hein.
Ouais, alors moi je suis absolument pas contre réinventer plein de trucs, surtout enlever les concepts pourris, parce que dans les comics, il y a quand
Il
même
y
des
en
concepts
a,
pourris.
ouais.
Et puis on peut pas faire un film de 2 heures avec la Phoenix Saga. Alors on a la Phoenix Saga, la Dark Phoenix Saga. Enfin on a plusieurs arcs différents. Bref, hein,
Oui.
c'est très dense, très compliqué. Même en série télé, c'est long à faire tenir.
C'est toujours le même problème, c'est qu'ils veulent adapter la Phoenix Saga en ne retenant que la Dark Phoenix pratiquement, mais ils oublient qu'il y a des années avant
Oui.
avec Jean Grey qui est le Phoenix et voilà, elle est dans l'équipe quoi. Hein.
Mais ce serait possible, hein, c'est juste qu'il faut bien le faire, mais
Mais
c'est
faut
possible.
que quelqu'un, bon, une fois pour toutes, ben ok, elle a le Phoenix, mais on va pas tout de suite partir sur Dark Phoenix ou tout le monde contre Jean Grey. Ben, elle va simplement rester dans l'équipe, utiliser ses pouvoirs et ça peut durer un, deux, voire plusieurs films. Pour aussi, voilà, comme je dis, que le spectateur s'attache vraiment à ce perso, comme les personnages sont attachés dans le film. Qu'il y ait
Oui.
ce truc émotionnel de se dire, ah putain, merde! Putain, finalement, le grand méchant, cette héroïne qu'on a développée pendant des films, quoi. C'est
Elle est
trop
peut-être morte
rapide.
un film trop tôt, là, je pense. Mais bon, ça,
Bah, ça,
après.
c'est toujours pareil, hein. Ils ont, voilà, c'est le côté de déjà bon faire le Phénix alors qu'on nous a simplement introduit Jean Grey à la serpe sur Apocalypse quoi tu vois donc
Tu sais quoi, je pense que tu peux faire Phoenix et Dark Phoenix en un film, mais pendant 1 heure elle est Phoenix, pendant 1 heure elle est Dark Phoenix, tu vois. Pour, comme tu dis, bien planter le
je
truc.
sais pas
C'est faisable. Bah,
franchement
tu peux faire un
ça me
film
paraît
qui se
trop
tient.
court
Bah, ouais, non, mais si tu t'éloignes des comics, tu pourrais, quoi, mais.
bah. Après, quand je te dis, enfin, moi, je veux pas que ce soit adapté. Enfin, tu vois, quand j'en ai que je m'en fous après tout. Mais j'ai quand même la sensation que il faut que t'aies, voilà, en tout cas plusieurs films avec ton perso, peu importe que ce soit Jean Grey ou un autre, hein, vraiment, tu vois, gentil, hein, entre guillemets, je mets des gros guillemets, avant vraiment de le tourner de l'autre côté, quoi. Si tu veux vraiment qu'il y ait un choc, quoi, tu
Ouais,
vois.
oui.
Si ça se passe, si tu introduis Jean Grey et que dans le même film elle va de l'autre côté comme ça, bon, ben, so what, quoi, tu vois, tu ne la connais pas, tu t'en fous, quoi. Enfin, c'est pas. Bon.
Bon, on verra ce qui sera fait chez Marvel.
Ben, chez Marvel, de toute
Enfin,
façon,
Marvel
à mon
Studios, je
avis,
veux dire.
les X-Men, on va pas les avoir avant un moment, hein.
Bah,
Faut pas
attends,
croire
non.
que.
N'allons pas trop vite, on fera ça tout à l'heure.
Oui.
Juste avant, alors le petit jeu de mais qui a donc fait des caméos? Est-ce que tu sais quels caméos ont eu lieu dans le film?
Alors là, aide-moi parce que.
Eh ben alors déjà on a un créateur des X-Men et pas n'importe lequel, Chris Claremont, qui apparaissait déjà dans X-Men 3. Je crois qu'il apparaissait que dans X-Men 3, dans la scène où Xavier va voir la jeune Jean Grey au début avec Jean qui fait lever une tondeuse. Il y a Stan Lee et Chris Claremont, il y en a un des deux qui tond sa pelouse. Enfin bref, il était déjà là. Là, bah, Chris Claremont apparaît. Alors c'est au début, lorsque Xavier reçoit une récompense pour avoir, enfin c'est dans le premier tiers, voilà, quand Xavier reçoit sa récompense pour avoir sauvé la navette spatiale, bah Chris Claremont est dans l'assistance. On a l'acteur Lamar Johnson qui joue le personnage de Match. Alors Match, c'est un étudiant dans X-Men, enfin c'est un personnage de quatrième zone qui a une tête en flamme. Alors visiblement il est dans le film, bon je l'ai pas vu. Et on a Daniel Cudmore qui fait aussi un petit caméo. Mais finalement, ah bah non, finalement non, il devait avoir, alors là je me fais tromper par ma news, il devait avoir un caméo mais il l'a pas eu. Daniel Cudmore, c'était celui qui jouait Colossus, mais finalement il n'était pas dans le film. Voilà, c'est une information totalement inutile, j'aime bien prolonger le podcast pour rien. Donc, bah justement, allons tout de suite à ce qui peut peut-être intéresser nos auditeurs ou pas, on s'en fout, on va geeker un petit peu. Et bah mon petit Jonathan, quelles sont tes attentes pour l'arrivée des X-Men chez Marvel Studios?
Alors, ben moi, enfin, j'attends rien hein, à ce degré-là, mais j'aimerais, voilà, j'aimerais qu'on ait des X-Men qui ne soient pas dans le ton général du MCU, quoi. Tu vois?
Ah, totalement,
C'est-à-dire
oui.
qu'on est, parce que
Et là, on peut juste remercier Dark Phoenix de ne pas avoir fait de la
alors
blagounette
ça,
dans tous
oui.
les sens.
Ça, parmi toutes les critiques, parce que moi j'ai quand même lu des trucs incroyables, hein, genre c'était le pire film de super-héros
Oui.
depuis des années. Hein,
Alors déjà, le pire X-Men, je suis désolé, X-Men 3 et
Ah bah
Wolverine
oui,
Origins sont
ah,
pires.
Wolverine Origins quand même quoi. Enfin je
Oui.
sais pas quoi, faut
Et
arrêter.
personnellement, Apocalypse, si t'enlèves le fan service, pour
Ah
moi
oui.
ce film est meilleur qu'Apocalypse. Hein.
Ah oui,
Même le fan
non.
service ne sauvait pas Apocalypse, dit
Non
n'importe
mais
quoi. Enfin,
Apocalypse c'est une catastrophe quoi. Enfin une catastrophe.
oui.
Attention à ce qu'on dit, mais en tout cas c'est pas meilleur que
Ah bah
Dark Phoenix,
si.
faut arrêter.
Ah bah pour moi c'est un nanar. On devrait. J'aurais très envie de le revoir et d'en parler parce que
Oui,
c'est
c'est.
un nanar. Il y a de ces facilités. Enfin c'est aberrant. La façon dont Apocalypse se réveille. Enfin les
Ouais.
choses auxquelles tu penses 2 secondes, comme le début où les rebelles donc opposés à Apocalypse ont réussi à trimballer un rocher énorme sans que personne ne le voie et le cacher sous une couverture. Et sa pyramide construite
Et puis
sur un puits de 10 kilomètres de
c'est pas
haut.
raccord déjà avec la scène post-générique de Dark Phoenix quoi, parce
Oui,
que
non,
non,
mais.
Dark Phoenix, The Day of Surpass,
Non,
s'il
mais
vous
alors
plaît.
ça, oui, mais c'est ça, mais les mecs arrivent à ne pas être raccord entre leurs films, même quand il n'est pas question de voyage dans le temps,
C'est
quoi.
ça qui est
C'est
formidable, quoi.
incroyable. Enfin, bon, bref, enfin, ou la façon dont Moira qui enlève une couverture et donc il y a un rayon de soleil qui tape sur la chose sur laquelle il ne devait pas taper pour réveiller Apocalypse. Et tu te dis, mais les mecs, t'arrêtes pas de rentrer et sortir, ça aurait déjà dû avoir lieu. Enfin, bref, ça n'a aucun sens. Voilà, vas-y, reprends, je t'en prie, les
Oui, non,
X-Men
mais
chez Marvel
surtout,
Studios.
voilà, là, c'est vrai, sur ce film-là, Dark Phoenix, à aucun moment, si tu veux, t'as eu un running gag ou de la blague ou je ne sais quoi, ou de la private joke, ou même ce qu'on a pu voir dans Endgame, un espèce de tapage dans le dos, ah ben tiens, t'as vu hein, les super films qu'on a fait et tout, enfin, là, on est resté, voilà, on est resté sur un ton globalement sérieux, et c'est ça que j'aimerais bien, que les X-Men chez Marvel, chez le MCU, donc, ils soient sur un ton relativement sérieux. Parce que pourquoi les X-Men, ça a été pendant, on va dire, au début des années 2000, la franchise star des comics en général, parce que ça parlait à tout le monde, quoi. Tu vois, c'était un message aussi sur, pas, enfin, une allégorie, enfin, comment dire, il y avait le côté avec le racisme, avec, tu vois, avec même le sida, enfin, avec le virus Stigassi, toutes ces choses-là, ça, c'était, il y avait des, c'était ancré dans la société, quoi. C'était ça, quoi. Et c'était voilà une franchise qui était globalement sérieuse quoi. Et je pense qu'on peut faire la même chose au cinéma. On n'est pas obligé d'avoir ce pseudo-ton de blague qu'on voit chez le MCU trop souvent ou qu'on commence à voir chez DC. Et voilà, moi c'est ce que j'aimerais quoi. Tu vois qu'on ait une franchise assez sérieuse, une franchise qui prenne son temps de se développer, qu'on parte pas sur des spin-offs dans tous les sens. Enfin voilà, qui prennent leur temps quoi. Moi je suis pas pressé quoi. Tu vois.
C'est ce que dit Kevin Feige dans ses communiqués. Après, il dit, bah, il peut dire ce qu'il veut et au final ne pas du tout
Oui,
respecter ce qu'il dit. Voilà. Surtout que déjà rien que pour Deadpool, ils savent pas, ils le gardent pas, ils le gardent à part. Enfin bon, bref, on verra bien. Mais oui, je suis assez d'accord avec toi. Hein. J'ai pas envie que ce soit de la blagounette dans tous les sens.
non.
Et j'ai envie d'avoir une équipe des X-Men qui ressemble aux X-Men. À partir d'X-Men 3, l'équipe ne. Enfin, moi, alors, je veux du Cyclope bien fait, du Jean Grey, du Wolverine, mais aussi du Colossus, du Diablo, du Tornade. Je veux vraiment les X-Men emblématiques. Du Kitty aussi, je veux les X-Men emblématiques, en
Ben
fait.
les X-Men de voilà ou même les X-Men de 91 enfin ou de 80 début des années 90 avec de Jim Lee quoi tu vois avec
Oui, ouais.
Malicia Gambit hein.
Bah ouais, bah celui dessin animé, mais à la place de Malicia, Gambit et Jubilé, bah je veux Colossus, Diablo et Kitty, tu vois.
Par exemple voilà par
Ça
exemple
ferait une belle équipe bien emblématique et tout. Ce serait génial, quoi.
arrêtez aussi avec Magneto.
Oui, ouais, arrêter de mettre du magnéto à tous les sens. Et puis
Voilà.
là, Maître Mystique, Vif Argent et tout. Enfin, les méchants qui sont même rarement, voire jamais dans les X, enfin, qui sont pas forcément de l'équipe de base dans les comics, non. Enfin, mettez-nous du X-Men de premier plan quand même plutôt.
Et puis, ne pas se laisser influencer par les carrières parallèles des acteurs, quoi, tu vois.
Totalement, oui.
C'est-à-dire, par exemple, alors bon, tu me diras, le MCU, de toute façon, ils avaient Robert Downey Jr.
Ouais, mais ce
Dès le
qui est
début, mais...
intéressant, c'est que le MCU, c'est justement Iron Man qui a propulsé, enfin, réhabilité Downey et l'a fait découvrir à toute une génération. Chris Hemsworth s'est construit grâce à Thor. Comment il s'appelle, le
Chris Evans.
Captain America? Evans, sa carrière a quand même eu un deuxième souffle avec
Bah, elle a
Captain
explosé,
America,
ouais.
tu vois. Pareil pour Star-Lord, Chris Pratt. Enfin voilà, les Chris avaient déjà une carrière avant, surtout Evans et Pratt. Et vraiment, leur rôle dans le MCU leur a donné un nouveau souffle.
Ben, Robert Downey Jr. et Chris Evans avaient quand même, bon, avant respectivement Iron Man et Captain America avaient quand même fait des. Je veux dire, Robert Downey Jr., on l'avait vu dans Kiss Kiss
Bah,
Bang Bang.
c'était le prélude de Kiss Kiss Bang
Voilà.
Bang. C'est ce qu'il a. Ouais, mais Kiss Kiss Bang Bang, à part les initiés, qu'il a vu
Oui, c'est
finalement.
ça.
C'est moi, je l'ai vu et j'ai adoré. Ben, je l'ai vu parce que je traînais sur des forums de cinéma, des machins comme ça. Et ah, faut voir ça, le nouveau Shane Black. C'était à la fois le retour de Shane Black et le retour de Robert. En plus, le premier Shane Black où c'était lui qui réalisait et pas juste écrivait. Il y avait un petit truc, quoi. Tu vois, c'était spécial, Kiss
Et
Kiss.
Chris Evans qui était dans Sunshine de Danny
Oui.
Boyle, mais bon, disons que malgré tout. Peu importe, c'était Robert Downey, enfin c'était Captain America, c'était Iron Man, ils sont restés au centre du MCU jusque dans la fin de Endgame, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Enfin,
Mais c'est les personnages centraux aussi, genre c'est pas Mystique ou
c'est
le
ça,
Fauve
c'est
ou je
ça
sais
que je veux
pas.
dire, c'est qu'on n'a
Enfin,
pas,
ouais.
on n'a pas décidé, tiens, parce que tel acteur a eu plus de succès que Chris Evans, bon, ben, je vais le mettre en avant par rapport à Captain America, quoi, tu vois.
Totalement, oui. Oui, c'est un peu comme si le Faucon avait éclipsé le Captain America, alors que Captain America est en pleine forme dans le scénario
Voilà.
et qu'il n'est pas encore temps que le Faucon le remplace ou pas, ou le Winter Soldier, quoi. C'est un peu, je sais pas si c'est le bon exemple, mais enfin, tu vois ce que je veux dire.
Ouais, ou bon, par exemple Scarlett Johansson, tu vois, qui avait peut-être certainement plus
Oui, voilà, ouais.
de gloire entre guillemets sur Hollywood que bah, justement Chris Evans ou Chris Hemsworth, en tout cas au moment où le MCU démarre. On n'a pas fait de Black Widow, si tu veux, ce qu'ils ont fait avec Mystique, quoi, c'est-à-dire un
Voilà,
perso
oui.
qui
Alors qu'elle aurait mérité, elle, justement. Alors que Black Widow, justement, méritait. Quoique, ça reste quand même un personnage important dans Winter Soldier, dans... Mais oui, je vois ce que tu veux
Mais
dire.
tu vois, enfin, ils l'ont pas enfoncé dans la gorge parce que ça reste quand même
Oui.
Black Widow, quoi. Un
Ouais,
perso,
ouais, ouais.
j'ai pas dire
Et
meilleur
là,
des
les
comics.
promos restent très centrés sur la Trinité, ou alors sur la Tétrarchie, si tu rajoutes Hulk, quoi. C'est Black Widow et Hawkeye aussi étaient toujours relégués à côté, et vraiment, c'est les quatre plus connus qu'on met toujours en
En
avant.
fait, c'est salaud ce que je vais dire, mais en fait, jusqu'au, si tu veux, l'arrivée de Captain Marvel, qui est très clairement post affaire Weinstein,
Et post Wonder
et
Woman.
post Wonder Woman, très.
Avant tout, c'est avant tout post Wonder Woman
Je
parce que même
pense.
sans Weinstein, ça se faisait.
Ouais, mais Wonder Woman, c'était. Enfin, c'est une membre de la Trinité, quoi, de DC, quoi. Donc, si tu veux, c'est pas étonnant qu'elle était déjà très forte dans Batman v Superman. Donc,
Oui, mais
c'était pas
on a quand
emmerdant.
même attendu longtemps enfin un film Wonder Woman et
C'est
c'est
normal.
clairement là où Marvel se sont dit, mince, on a loupé quelque chose.
Mais ce que je veux dire par rapport à Captain Marvel, c'est son importance, si tu veux, dans l'univers MCU en lui-même, quoi, en termes de puissance, en termes de, tu vois, en termes de, un petit peu de, voilà, de Deus Ex Machina, quoi. Ou franchement, Captain Marvel, c'est un perso, bon, franchement, pas grand monde se met à plat ventre pour l'avoir au cinéma,
Oui,
quoi, pour tout à fait
et
honnête.
surtout pas Carol Danvers. Je veux pas critiquer le personnage, hein, je l'aime bien, mais moi, bah, une de mes grandes déceptions, alors, on sait pas si on fera une petite émission où on fait le récap des films qu'on n'a pas chroniqués ou pas, mais moi, une grande déception, c'est de me dire qu'on n'aura jamais le Marvel originel
Ouais,
au
c'est ça,
cinéma,
c'est ça.
qui est un personnage que j'adore. Là, c'est vraiment le lecteur qui parle, hein. C'est pas juste le vieux relou,
Mais
vous n'êtes pas
non.
fait comme dans les comics, c'est que je suis attaché à ce perso et je suis triste que je ne l'aurai jamais et que j'aurai peut-être jamais Jenisvel ou Philavel. Philavel, qui est un personnage que j'adore, justement.
Mais moi, enfin, simplement d'un point de vue objectif, il y a quand même beaucoup plus à raconter sur Marvel que sur Carol Danvers, quoi. En tout cas, de la
Ouais.
manière dont elle a. Alors, c'est vrai, tout dépend de qui l'écrit. Chaque personnage dépend de qui l'écrit. Mais bon, le matériel de base en comics sur lequel le MCU s'approvisionne largement, il est quand même plus intéressant. Bon, mais.
Bah,
Bon.
tu sais quoi, la façon dont Carol Danvers reçoit ses pouvoirs dans le film m'a pas dérangé. Ça reste quand même proche des comics, tu
Ah
vois,
non,
donc.
non, moi c'est pas ça, moi c'est simplement, si tu veux, l'importance qu'on cherche à lui donner. Et c'est
Oui,
justement
oui,
ça
oui.
que, bon, tu vois,
Oui, parce que honnêtement, dans les comics, ça prend pas tellement que ça. Enfin, cet engouement qui est censé y avoir autour de Captain Marvel, je le trouve un peu artificiel dans les comics.
Ah ben dans les comics, ils ont essayé de l'imposer comme la nouvelle Captain America, notamment dans Civil War 2, et ça a été une catastrophe,
Oui,
quoi. Enfin,
ils voulaient
c'est...
en faire une membre de la Trinité ou
Non.
de la Tétrarchie, enfin, je sais pas trop ce qui. Mais ça prend pas. J'ai pas l'impression
Non,
que.
il reboote tous les 6 mois Captain Marvel,
Oui,
donc
ouais.
c'est il relaunch, pardon. Donc, tu vois, c'est une Captain Marvel qui est incarnée en plus par Brie Larson qui venait d'avoir l'Oscar de la meilleure actrice pour Room. Et voilà.
Oscar mérité, hein, j'ai vu Room
Oui,
d'ailleurs,
ça
excellent.
c'est pas un
Il est
problème.
sur Netflix. Je me fais là cette parenthèse parce que allez voir ce film,
Oui.
il est excellent et il ne vous mène pas du tout là où vous pouvez penser qu'il vous
Mais
mène.
vous pouvez aller voir aussi State of Grace, hein, qu'a fait Brie Larson
Ah,
juste
je l'ai pas vu
avant.
celui-là encore. Ouais, il faut que je le voie celui-là.
Mais toujours dans sa carrière indé. Mais
Ouais. Et
voilà.
n'allez pas voir Kong par contre.
Kong, ouais. Non, bah allez le voir pour Tom Hiddleston
Bon.
quand même. Allez,
Ouais,
Samuel
pour Samuel
Jackson.
Jackson complètement taré face au gorille, allez le voir surtout pour ça.
Ouais, non, mais c'est vrai que bon, il faudrait que le MCU garde un peu cette idée de, voilà, on démarre sur cette équipe des X-Men là. On a cette idée sur plusieurs films. On se laisse pas influencer par, tu vois, par ce qui va venir
Ouais.
derrière les carrières des uns et des autres. Il n'y a
Ouais, mais ils vont
pas.
caster tout de suite des stars si ça se trouve. Ils vont, je sais pas, enfin.
Peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas qu'il n'y ait pas, si tu veux, les problèmes qu'on a eu à l'époque avec Hugh Jackman, avec Halle Berry, qu'on a encore eu
Bon,
avec
Hugh
Jennifer
Jackman, c'était
Lawrence.
pas tellement un problème parce que Wolverine est central de base. Il était assez bien écrit dans les films et Hugh Jackman le faisait bien,
Pff,
même
quand
si
il
c'est
finit en
pas.
leader dans Last Stand, alors que t'as Cyclope qui meurt au début
Oui,
comme un
non,
connard.
ça, oui. Ouais, ça c'est à moitié à cause de la popularité de Hugh Jackman et à moitié parce que Marsden se barre avec Singer. Et
Aussi,
là,
ouais.
clairement, ouais, et clairement, si on avait instauré Storm en seconde dès le début, alors que finalement, je crois que c'est elle qui devient la directrice de l'Institut à la fin,
Ouais.
ça aurait peut-être. Bon, bref. Bon, on s'éloigne un petit peu, quoi. On verra ce que ça donne, mais
Oui.
je suis d'accord avec toi. Enfin, juste pour dire, moi, mon point de vue, c'est que, en fait, ce que j'attends le plus, c'est des costumes de X-Men.
Oui, aussi, ouais.
Parce que dans
Assumé.
Apocalypse, ce que j'ai quand même préféré, c'est la petite scène finale dans la salle des dangers. Et voilà, je me suis dit, mince! Là, on a amorcé une scène qu'on coupe au meilleur moment et c'est ce que je voulais voir.
C'est vrai qu'sur le climax de fin, ils sont pas en costume.
Dans Apocalypse, tu veux dire, ou là,
Dans
dans ce
Dark
film-là?
Phoenix,
Ah ouais, dans Dark Phoenix, non. Et les costumes très années 90, justement, qu'ils ont à la fin de Apocalypse. Je crois que j'ai dit Days of Future Past avant, non? Enfin, bon, bref.
d'Apocalypse, ouais.
Non, Apocalypse, parce qu'il y a les Sentinelles, c'est pour ça que je confonds les deux. Bref, hein. Quand à la fin, ils sont dans la salle des dangers avec Mystique, qu'ils ont des costumes très comiques, ah, j'espérais qu'ils aient ces costumes-là dans la suite. Même si c'est, j'aime bien les costumes qui font très uniformes dans celui-là, très inspiré de la période Morrison Quietly. Je les aime bien, ils sont sympas, mais je veux, voilà, je veux des costumes en spandex. Autant en 2000, je comprends que pour le premier
Oui,
X-Men, ils
voilà.
savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Enfin, il y a tout un contexte, il y aurait toute une émission ou des articles à faire là-dessus, et certains l'ont déjà fait ailleurs, donc on va pas maintenant s'étendre dessus. Mais moi, ce que je veux, c'est un aspect comic books.
Assumer l'héritage, quoi.
Oui, voilà, ouais, parce que dans le MCU, malgré tous les défauts que je commence à trouver à MCU. Ce que j'aime par contre, c'est qu'ils assument
Ah
totalement le
oui.
côté comic
Ah
books
oui.
et qu'on commence vraiment à avoir un univers où il y a de plus en plus de héros dans tous les coins. On commence à avoir des héros qui combattent même sans doute des vilains de seconde zone entre les films. Enfin, il y a ça, j'apprécie quoi.
Et puis sur le plan des costumes, de toute façon, à partir du moment où les types sont en mouvement, je veux dire le costume de Captain America sur le premier Avengers, tout le
Ouais.
monde se foutait de sa gueule. Et puis finalement, enfin, ça passe largement, quoi. Je veux dire,
Oui, ouais.
faut arrêter,
Bon,
quoi.
c'était pas son meilleur. C'était peut-être le moins bon de tous les costumes
C'était le
qu'il a
moins
eu, si
bon,
sur
mais
plein. Ouais.
honnêtement, si on retient ça d'Avengers, franchement,
Et puis ça sert le propos. Je l'ai revu récemment. Je crois que c'est là, oui, où Phil Coulson lui dit un peu de rétro. Non, pas de rétro, de old school, de old fashion. Enfin, un peu de bon vieux souvenir d'antan, quoi. De souvenir rassurant, ça fait pas de mal. Il avait un costume assez rétro, mais ça va bien avec le personnage qui est le Man of Time.
Oui.
Man Out of Time,
Ouais.
pardon. Je suis toujours, voilà, malgré notre longue pause, je suis toujours aussi bon en anglais, n'est-ce pas? Enfin, ça renforçait ce côté-là, ça donne une blague marrante dans Endgame. Mais peut-être qu'on reparlera d'Endgame prochainement. On va voir pour Endgame. On va sans doute faire une émission sur Endgame plus tard dans l'été. Alors, on vient d'apprendre que le film va ressortir avec une scène post-générique et peut-être des scènes en plus. Donc, soit à cette occasion-là, soit plus tard dans l'été, on va le refaire parce qu'en plus, c'est un film qui peut être intéressant à être disséqué après l'avoir digéré, voire même après avoir revu. Et surtout d'avoir vu aussi Spider-Man qui nous montre un peu les effets d'Endgame. Enfin, je pense que l'analyse d'Endgame après coup, ça peut être intéressant. Donc ça c'est sûr, je pense qu'à un moment donné, on se calera une émission Endgame. Et peut-être, pourquoi pas, une autre émission où on revient sur Captain Marvel, Shazam. Alors je sais que toi t'as vu Hellboy, moi pas, mais par complétisme, je vais le voir.
Alors là.
Donc, pourquoi pas une émission récap? On en parlait avant. Shazam nous botte. Enfin, moi, j'ai envie de parler de Shazam.
Oui.
Donc, on va voir. C'est une question de temps. Alors, avant que je commence à basculer totalement dans les annonces sur le site, tu avais encore quelque chose à dire sur ce film-là ou en
Non, mais
général?
c'est voilà, juste que dire, c'est dommage, quoi, parce qu'il y a du potentiel et comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est pas exploité à fond, quoi.
Ouais.
Et c'est pas non plus la merde qu'on veut bien dire, quoi. Faut pas,
Oui,
faut.
oui, oui. Et encore une fois, on a un film malade, quoi. Le réalisateur qui avait quand même une vision, qu'on l'aime ou pas, sur ce que devait être la saga, se fait débarquer. On met le type, bon, qui a quand même écrit, ben, elle a quand même écrit X-Men 3, je crois, King Dog. Enfin, le mec n'a pas écrit non plus le meilleur scénario, mais c'est quand même quelqu'un. Alors, le pire en plus, c'est que c'est un type qui a touché aux trois quarts des scénarios de la saga et il fait des fautes de raccord, c'est formidable. Enfin, ce type qui n'a jamais fait de film devient réalisateur d'un blockbuster. Enfin, c'est racheté par Disney. C'est un film malade de bout en bout.
Jessica Chastain qui est sous-utilisée et
Oui, on n'en a pas parlé du
c'est
tout,
pour
mais
dire hein,
ouais,
c'est dire à
c'est.
quel point voilà.
À ce niveau-là, alors certains pensaient d'ailleurs qu'on aurait une nouvelle Emma Frost, vu que Jessica Chastain a les cheveux tout blancs. La pauvre Jessica Chastain, elle a pas l'air, elle est un peu pâlotte quoi dans le film.
Bah, elle est déjà pâlotte de base, elle a la peau blanche, mais là c'est
Oui.
vrai qu'avec sa coupe de cheveux blonde, hein, blanche. Et
Une fois qu'elle devient une alien, ça marche bien.
oui, elle est sous-utilisée, quoi. Enfin, elle est
Oui,
bon.
elle est sous-utilisée totalement. Donc voilà, bro. Pour une fois, on a réussi à pas faire trop long sur le
Oui.
film. Je vais pas partir sur les easter eggs parce que j'en ai pas vu beaucoup. J'ai pas fait de recherche, donc il y en a. De voir une ou deux inscriptions par-ci par-là ou deux personnages, mais bon, il y en a, mais
L'important, j'en ai pas vraiment vu de.
non, il y en a pas vraiment ici. Donc, il y aura encore des choses à dire hein, sur les retcons. La Jean Grey aussi, voilà, qui ici, bon, responsable de la mort de sa mère, tout ça, bon, pourquoi pas, bref, on va pas. Ça, c'est le changement par rapport aux comics, mais ça me gêne absolument pas. Donc, les annonces du site, comme je le disais, on réfléchit à d'autres épisodes ciné, peut-être des spéciaux, au moins à un moment donné, d'ici fin août, un rattrapage Avengers, peut-être une deuxième émission sur plusieurs films. Ce qui est sûr, c'est que d'ici 2 semaines, alors là, on est le mercredi 19 pendant qu'on enregistre, donc si je dis pas de bêtises, dans 2 semaines, Spider-Man sort. J'irai le voir le jour même ou le lendemain ou le surlendemain. Normalement, j'ai le temps. On essaiera de faire l'émission dans la foulée. Et autre annonce, dans 8 jours exactement, si on reporte pas la date, on va enfin refaire un Comics Office, le podcast. L'émission revient après quelques temps de pause pour des raisons, on en reparlera peut-être ou pas, hein, bon, pour des raisons de disponibilité, entre autres. Enfin, voilà, c'est la vie, c'est comme ça, hein. On réfléchit à faire peut-être une version un peu changée, un peu raccourcie. Vous verrez quand ça sortira. En tout cas, Benny travaille sur le conducteur. Il a promis qu'il m'en enverra un très rapidement. Et je le crois sur parole, n'est-ce pas, Jonathan?
Mais parfaitement, sa parole est d'or.
Exactement. Il est toujours bon de tacler un petit peu Benny, surtout quand il n'est pas là. Donc voilà, d'autres choses. N'hésitez pas aussi à m'envoyer vos questions par rapport à la conférence que j'ai tenue au Bonne Comics sur Frank Miller et sa vision de l'histoire dans 300. Vous pouvez retrouver donc cette conférence que j'ai enregistrée sur notre site. Il y a un enregistrement disponible sur notre site et sur les applis de podcast. C'est dans la nouvelle section Les conférences Comics Office. On espère en faire d'autres conférences à l'avenir. Qui sait, peut-être un jour avec mes comparses, hein, on ne sait pas. C'est possible, n'est-ce pas, Jonathan?
Oui,
Dans un futur alternatif.
ouais, qui sait?
Non, enfin, en tout cas, comme je l'ai dit, si vous l'avez écouté, j'attends bah, évidemment vos commentaires avec impatience. Et ou, alors, soit directement sur le site. Vous pouvez aussi m'envoyer vos questions par mail à contact@comicsoffice.com ou alors via Facebook et Twitter, parce que je prépare une autre petite émission qui, en gros, reviendra sur des points que j'ai soit pas abordés, soit juste survolés, ou s'il y a d'autres choses que vous voulez savoir. Enfin, si vous voulez que j'aborde d'autres points par rapport à 300 et Frank Miller dans cette petite émission supplémentaire que je prépare, allez-y, j'attends avec impatience, vos suggestions. Jonathan, t'as autre chose à dire?
Non, bah si si, allez écouter cette conférence de Marty hein, sur 300 qui est très très bonne.
Oh,
Vous
merci.
apprendrez énormément de choses, pas simplement sur le comics en lui-même, mais et sur le film, mais aussi sur je dirais l'histoire hein, en elle-même de cette époque-là, hein, de la Grèce antique, donc du Sparte, donc voilà, très très bien.
Oui. Oui, je parle à la fois de l'histoire du comics et de l'histoire dans le film, mais aussi de l'histoire enfin, l'histoire avec un grand H dont le comics s'est inspiré. D'un point de vue histoire de Frank Miller, comment Frank Miller a monté de ça, enfin bon, allez-y, vous verrez bien. Voilà, je vends super bien le projet. À côté de ça, donc, le site aussi, vous avez peut-être vu, j'ai un peu recommencé à mettre des articles. On a eu plusieurs articles sur les différents projets en financement participatif des éditeurs français. On a plein de belles choses. Alors, il y en a, alors, j'ai pas envie de m'en mêler entre celles qui sont déjà finies ou celles qui sont en train de se finir. Donc je vais en donner aucune en exemple pour pas me tromper, mais allez-y. Enfin, à mon sens, tous les projets que j'ai sélectionnés valent le coup. Vraiment, il y a que du bon. Il y a du très très bon, du très bon. Enfin, allez jeter un œil. Et je prépare là d'ailleurs, je peux le dire parce que l'article est à moitié écrit, je devrais le finir demain. Je prépare aussi un article pour une nouvelle section qui traitera des comics restés injustement inédits en VF. Et je commence avec un comic sur les X-Men. Et j'ai une autre idée d'article aussi sur les X-Men. Mais bon, voyez, que voulez-vous, hein. Comme beaucoup d'entre vous, notamment nous lecteurs français, ben, on s'y est beaucoup mis grâce aux X-Men. Donc c'est normal que ce soit un sujet quand même qui revienne tout le temps que dans nos podcasts ou même sur nos articles. Donc voilà, restez vigilants, prépare des choses pour le site. Même si je peux déjà dire qu'il y aura de nouveau une période de creux. Je pars en vacances un mois au milieu de l'été. Donc on va voir si on prépare des choses ou pas, ou si on refera une petite pause. Bref, on se retrouve très très bientôt. Allez, salut!
Salut à tous!
Ah mince! Ah ben, je. Oh, ben, je suis bête!
Hein?
On n'a pas fait. Ça, par contre, c'est toujours bien de faire des petites recommandations.
Hein?
Ce qu'on peut faire. Ah bah ben, tiens, on peut quand même le faire, je le mettrai en bonus. T'aurais donné quoi comme recommandation?
Comme recommandation, bah, très clairement, déjà la saga du Phénix Noir, de Dark Phoenix, forcément de
Ouais.
Chris Claremont et John Byrne.
Bah ouais, surtout que Panini a sorti un Absolute qui reprend les différents épisodes de Cockrum, Burn, enfin il y a du Cockrum et du Burn au dessin, et de Claremont au scénario, avec en plus le Untold Story ou leur épisode d'une grecque survie, un inédit qui n'était pas dans les intégrales en noir et blanc de Bizarre Adventure, enfin ouais, bah t'as raison quoi, la saga originelle quoi. Et t'aurais eu autre chose? Pardon, je t'ai un peu coupé.
Ah oui non mais après ouais à part de toute façon à part Dark, la saga du Phénix Noir pas trop ce que tu peux conseiller hein de toute façon
Les sagas sur
oui.
Genosha. Si vous voulez voir, ouais, vraiment, il y a plein de sagas différentes sur Genosha, que ce soit quand Magneto n'est pas encore le maître de Genosha ou une fois qu'il l'est.
Ouf, oh là le attends c'était pas non c'est Extinction Agenda qui était sur Genosha là à la fin des années 80.
Ouais, oui, c'est là où je crois que Magneto prend le pouvoir, non?
Extinction Agenda, je crois que c'est la première fois qu'on a introduit. Parce qu'au début, Genosha, c'était l'État qui, enfin, qui asservissait les mutants. Qui,
Oui, tout
ouais.
à fait,
Oui,
oui.
bah oui, c'est. Alors, c'est un arc qui avait donc vers la fin des années 80, juste entre la période des X-Men qui était en Australie et le début de Inferno. Puisque je me souviens
D'accord.
qu'on a dans Extinction Agenda Madeline Pryor qui est emprisonnée donc par les grands ponts hein, enfin de Genosha et en fait elle avec ses pouvoirs déjà on voit qu'elle a déjà les pouvoirs de la Goblin Queen et elle enfin tu vois voilà c'était pas mal mais c'était pas fou non plus je trouve.
Et ma Panini vient de ressortir Extinction Agenda sous le nom de Extinction Programmée dans sa gamme, comment elle s'appelle? Marvel Event, je crois, si je dis pas de bêtises, oui. Là, le 9 mai. Donc, s'il y a des gens que ça intéresse, vous pouvez aller voir ça,
Ouais.
quoi.
Mais après oui, il y a pas de enfin bon c'est un film à part de toute façon c'est un film à part Dark Phoenix, c'est un film qui à part bon on va dire le concept de la Dark Phoenix saga enfin ne s'appuie pas vraiment sur des
Oui,
grands arcs
bah, ça reste un des films qui s'appuie le plus sur un arc des comics finalement, hein, à part Days of Future
bah
Past. Parce que Apocalypse, il picore un peu à gauche à droite, tu vois, First Class picore à gauche à
Oui,
droite.
Apocalypse, ils reprennent juste le concept d'Apocalypse et des quatre Horsemen et
Ouais.
c'est tout.
Ça prend un peu, notamment les épisodes d'X-Factor, des débuts avec Angel qui est le cavalier, tout
Ouais,
ça, enfin,
enfin,
et ils adaptent.
sans le drame du fait de perdre ses ailes face à Harpon
Ouais.
dans le massacre, enfin, Mutant
Oui,
Massacre.
ouais.
Mais par contre, tu vois, dans Last Stand, aussi nul que c'est, bon, bah, tu vois, t'as Dark Phoenix forcément, mais t'as aussi The Cure, enfin, la saga avec.
Oui. Ouais, et puis dans X-Men 2, c'était Dieu créé l'homme détruit, c'était revendiqué,
Ça.
et un peu l'arme X
Oui.
aussi. Et même le premier film X-Men, il reprenait quelques trucs à gauche à droite, bah notamment les très vieux épisodes dans les années 60 où Magneto crée une machine qui fait des mutants en Terre sauvage. Donc, c'est vrai que non, finalement, les films X-Men, quand même, bah, celui qui reprend peut-être le moins des épisodes précis, c'est peut-être finalement First Class à y repenser. Même s'il reprend aussi des épisodes
Bah,
à
enfin,
gauche
ça
à
reprend
droite, des
le
éléments à gauche
concept
à
d'une
droite.
série, quoi. J'ai envie de te dire.
Ouais.
Ouais, c'est plus Apocalypse, hein, quelque part, pour moi, qui finalement, tu vois, ça pue le.
Ils refont un peu aussi l'arme X dans
Ah oui, en
Apocalypse,
plus, c'est
donc
vrai. Ouais.
non, ouais. Bon, ben oui, mais c'est vrai que tu peux quand même retrouver dans chaque film plusieurs inspirations des comics. Ça reste, enfin, on peut pas les accuser d'avoir totalement ignoré les comics aussi, quoi.
Mais de toute façon, ils le font sciemment, hein, parce qu'ils savent très bien que, bon, bah, voilà, c'est. Il y a tout un public. Parce que de toute façon, les gens qui lisent pas des comics, bon. Ça ne les impacte pas. Par contre, ceux qui lisent des comics, bon, si on peut faire du fan service en leur mettant des arcs qu'ils
Ouais.
connaissent, voilà, tout le monde le fait, hein.
De toute façon, en comics, à part adapter un arc précis ou un récit limité précis comme Watchmen, aucune saga, et surtout pas les sagas des années 60, 70, 80, ne sont écrites comme des films
Non,
finalement.
non.
Donc c'est compliqué à adapter à peu près fidèlement. Mais c'est vrai que tu as raison, recommandation de lecture. Bon, à part la saga des Dark Phoenix, qu'on vous invite, enfin les différentes sagas, parce que on peut séparer, comme je l'ai dit avant, Phoenix Saga et Dark Phoenix
Oui.
Saga, parce qu'il y a plusieurs. Enfin, bon, bref, il y a plusieurs choses. Puis moi, ce que je recommanderais aussi, c'est, ben, alors, c'est quelque chose que je vais voir d'ici 2, 3, 4 jours. Ce sont ben, les épisodes de la série X-Men des années 90.
Ah bah oui.
Parce que finalement, ce film, je me suis dit quand même, ça fait quand même tellement longtemps que je veux me la faire, cette série des années 90. Et voilà, je me suis dit, allez, là,
Ah ben
j'y vais.
c'est là qu'il y a la meilleure adaptation de, encore une fois, la Phoenix Saga, quoi.
Oui, et puis, même, purée, quelle adaptation. Alors, il y a des défauts, bon, des défauts de graphisme. Dès l'époque, déjà, c'est un peu moche, c'est un peu
Ça
maladroit,
reste,
bref.
oui.
Et puis, il y a des énormes facilités, il y a des trous parfois dans le scénario, et en même temps, enfin, il y a des trous de logique, ils font certaines choses, il n'y a aucune conséquence, bref. Mais d'un autre côté, les scénarios sont prenants. C'est waouh, ils arrivent à te synthétiser un nombre incalculable de choses. Là, j'en arrive en 10 jours, je suis à. Alors, les saisons sont courtes, hein, c'est des épisodes de. Quand on veut les récaps, c'est 18 minutes, tu as 13 épisodes par saison. Je suis à 2 épisodes de finir la deuxième saison. Bah, il y a déjà eu Days of Future Past, Genosha, Bishop, Cable, Apocalypse, Sinistre, la Terre Sauvage, le Fléau. C'est un nombre malade de trucs. Il y a eu Miss Marvel, justement. Bah, Miss Marvel, tiens, qui sait, dans les films, on aura peut-être une rencontre Malicia, Miss Marvel. Tiens, enfin, il y avait ça dans un épisode. C'est fou tout ce qu'ils arrivent, même rien que dans la première saison. Ils t'incorporent un nombre de choses. Et là, je sais que la troisième saison, c'est là où il y a l'arc du Phénix, et j'ai hâte d'y être. Surtout que ça dure très
Ça t'a
longtemps.
laissé quand même au moins 2 saisons où t'as pu t'attacher à l'équipe, à Jean Grey, enfin
Ah
tu vois.
oui! Et il y a très peu de fillers, hein, vraiment. Mais vraiment, tous
Non,
les
non.
épisodes, même quelques épisodes qui mènent pas à grand-chose, mais au final, il y a toujours soit un subplot, soit la caractérisation du personnage qui a une
Ce
conséquence
qu'ils ont
sur la
toujours très
suite.
bien fait, c'est et c'est ce qu'ils faisaient dans de toute façon dans les années 80, ou même les débuts des années 90, c'est avoir l'arc principal. Et derrière, t'avais toujours un subplot qui allait devenir l'arc principal, tu vois, le coup classique du méchant qui est en fond. Il le faisait parfaitement.
Oui.
Ça, il le faisait parfaitement.
Ah ben là, dans la saison 2, ils font un double subplot parce que d'un côté, t'as Sinistre qui embête Cyclope et compagnie, et en même temps, t'as Magneto et
Les
Xavier sur
Terres
la Terre
Sauvages, ouais.
Sauvage, et ça a l'air d'être, de ce que je pense deviner, c'est aussi Sinistre, enfin, c'est génial. Et là aussi, ils ont synthétisé des trucs, enfin, ils arrivent à la fois à synthétiser les épisodes de l'époque Lee Kirby, puis Thomas Adams, et l'époque Claremont, Cockrum Byrne. Et aussi un peu, ils prennent un peu dans les épisodes de ce moment-là où c'est Jim Lee, Portacio, Byrne et compagnie. Enfin, wow, c'est fou. Ils mélangent toutes les époques et c'est cohérent.
Ouais.
Ça tient. La seule chose que je peux reprocher à la série, c'est qu'au final, l'équipe évolue pas. Alors, on croise Colossus une fois par saison, mais il n'intègre pas l'équipe. Je sais que Diablo apparaît 3, 4 fois, mais il n'intègre pas l'équipe. Enfin, c'est juste ça qui est dommage. C'est que, à part des membres qui, de temps en temps, pas comme le fauve qui est en prison, ou Xavier qui est en Terre Sauvage, il y a des membres qui sont séparés ou qui disparaissent. Mais l'équipe en elle-même, par contre, n'ajoute pas de nouveaux membres. Et il y a des fois même trop de
Bah, il y a
caméos.
aussi bon les problèmes de l'époque, c'est-à-dire par exemple quand tu vois apparaître Cable, c'est toujours un Cable qui est je dirais un gars qui tu vois qui on croit comprendre qu'il vient du futur mais Tu vois, c'est en plus enfin, à l'époque, on sait pas que c'est le fils de Jean Grey Scott, et tu vas le savoir, enfin, tu sens bien que il n'avait pas encore décidé à ce moment-là en comics, quoi.
Bah, c'est le cas dans la première saison.
Voilà.
Dans l'épisode 1, Cable, il apparaît, c'est un ancien mercenaire de Genosha. Puis, quand il réapparaît plus tard dans la saison, c'est déjà un voyageur temporel du futur. Puis là, il y a un épisode où son bras, c'est encore un bras robotique, il n'y a pas de virus. Mais ensuite, on nous parle de technovirus. Et là, dans le dernier épisode où je l'ai vu, c'est déjà sous-entendu qu'il y a un lien entre lui, Jean et Scott. Et la deuxième saison, c'est 93. Bah, à ce moment-là, on a déjà établi que Cable, c'est. Et puis, oui, même dans la série, il y a des petits ajustements de la continuité, quoi. Mais c'est pas mal. On pourrait en faire un spécial, hein, vraiment.
Non, mais comme tu sais, Wolverine and the X-Men, pareil, a très
Oui.
bien réintroduit le concept du Phoenix, hein.
J'allais y venir. Mon autre cause, c'est si vous avez jamais vu cette saison. Bah, cette saison, c'est un peu la même chose que X-Men 92, comme on l'appelle. Sauf que, bah, au lieu d'adapter les sagas qui vont des années 60 à 90, ils adaptent principalement les sagas des années 2000 avec un petit peu d'éléments des sagas des années
Quand
60 à
même. Quand
90.
même, je veux dire, on va pas trahir les plots, les grands plots, mais enfin, ils reprennent quand même, notamment une très grande histoire des X-Men, hein, donc.
Oui, ils reprennent deux très grandes
Oui.
histoires d'X-Men, celles en fond, avec ben, justement un personnage séparé, comme là la saison 2 ou la saison 1 même de X-Men 92, qui d'un côté est plongé dans une des grandes sagas. On a la saga du Phénix en fond, et par contre, dans les autres sagas, ben, là on est plutôt dans les choses de fin des années 90 et 2000, Emma Frost chez les X-Men, Magneto qui est vraiment maître de Genosha avec une cour et des mutants réformés autour de lui. Enfin, voilà, c'est vraiment. On a aussi des classiques comme Un combat contre Hulk. Enfin, découvre vraiment Wolverine and the X-Men, série injustement finie trop tôt, alors qu'une saison 2 était prévue et que, vu ce qu'on nous annonçait entre ce qu'on voyait à la fin de la saison 1, qui sera la seule saison donc, et les dessins préparatoires, ben, il y avait de belles choses qui arrivaient. À la même, un peu, non, un peu après, ils ont annulé Avengers Earth
Ouais.
Mightiest Hero au bout de deux saisons. Alors que c'était situé en fait dans le même univers, c'est un univers partagé, et aussi il y avait sans doute une saison 3 de prévu qui allait être pas mal. Enfin, c'est des séries, si vous ne les avez pas vues, allez-y, parce qu'elles sont bien. Si on ne connaît pas les séries, les
Elles sont
comics,
bien.
elles sont
Et si on
bien.
connaît les comics?
Et si on connaît les. Oh là là, c'est comme X-Men et Spider-Man aux années 90, quoi. Ou la série Spectacular Spider-Man pour rester dans les séries de 2008-2009. Hein. Encore une série annulée au bout de deux saisons alors qu'une troisième devait avoir lieu. Enfin, c'est des séries qu'on. Si en plus tu connais les comics, mais ça devient extraordinaire. C'est les meilleures adaptations
Earth
qu'on ait eues,
Mightiest
quoi.
Heroes est vraiment une grande série, hein, ça.
Oui. Alors plus la saison 1
Oui.
que la 2, même si la 2, il y a de très bonnes adaptations, il y avait un truc en moins. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a la deuxième, je trouvais qu'il y avait un petit truc en moins. J'ai jamais pu mettre le doigt exactement sur ce que c'était, mais avec de très bons épisodes quand même, hein, et une très bonne synthétisation de. Ou synthèse plutôt, je devrais dire, d'histoires de différentes époques, hein. Voilà,
Bref.
bref, bon, nos recommandations, donc retournez lire les comics et regardez les dessins animés classiques, et ne regardez pas, sauf si vous voulez faire des comparaisons, X-Men Last Stand. Ah, mais j'y pense, si vous voulez voir Phoenix qui se sacrifie ou les X-Men porter les costumes du film, vous avez évidemment le run de Grant Morrison, qu'on ne recommandera jamais assez.
Oui.
Chez Panini, vous pouvez le trouver soit en Marvel Icons, c'est en deux tomes, chaque tome est à 36 euros, il me semble, ou alors vous avez la collection Marvel Select, où là c'est 4 tomes souples, et c'est 18 euros, je crois, le tome, quelque chose comme ça. Donc en gros, quelle que soit la collection, vous avez le même prix, hein, à vous de choisir laquelle vous préférez. C'est toujours très cool à lire, Grant Morrison. Et puis, juste. Puis, tiens, je suis un peu d'actu, on a Carrefour qui a lancé une série, je crois qu'il y en a une douzaine de bouquins Marvel. En gros, c'est des comics à 2,99 qui sont consacrés à chaque fois à un personnage ou une équipe avec un ou deux arcs dedans. Et on a un tome consacré à Phoenix avec les deux mini-séries écrites par Greg Pak, à savoir Phoenix Warsong dessiné par Greg Land. Bon, alors moi je suis pas un grand fan de Greg Land, hein, c'est toujours très statique, mais c'est peut-être pas son pire travail celui-là. Et sa suite, Phoenix Warsong, où là c'est dessiné par Tyler Kirkham, c'est pas du tout le même style, là c'est vraiment pas ma came. C'est pas spécial spécial, hein. C'était sorti en France dans le mensuel Astonishing X-Men, il me semble, à la base. Et c'est deux histoires où, alors dans la première, le Phoenix revient, ça se passait pas très loin. longtemps après le run de Morrison. Jean Grey revenait déjà vite fait. C'était sans doute trop tôt par rapport à sa mort, même si en fait, bon, enfin, je ne vais pas spoiler, mais elle n'est pas tout à fait morte. Enfin, ça rejoint un petit peu la fin du film Dark Phoenix. Et donc, la première mini-série était passable, la deuxième était vraiment pas top. Elle appelait d'ailleurs une suite, a priori, qui n'a jamais eu lieu. Je ne sais pas s'il avait vraiment prévu ou si c'est juste une porte ouverte. Bref, enfin, c'est à 2,99€. Si vous êtes intéressé par Jean Grey, vous pouvez tenter, mais ce n'est pas essentiel non plus. Et de manière générale, toutes nos recos qu'on vient de vous faire, on vous les mettra dans le billet qui présente l'émission sur le site. Et ça me fait penser qu'on a aussi eu sur YouTube une vidéo qui a été sous-titrée en français officiellement, où on a Claremont et Louise Simonson qui reviennent sur le personnage de Phoenix. Ça dure 2-3 minutes, je vous le mettrai dans le billet. Et on a également Marvel qui a sorti une série de vidéos. Alors, ça s'appelle comment? Je crois que c'est X-Men Seminal Moments. X-Men, les moments séminaux. En gros, il y a 5 vidéos en tout. Il y en a 4 où ils reviennent sur des grands moments de l'histoire des comics X-Men. Et on en a une dernière vidéo. Et on a une dernière vidéo qui, elle, nous présente la future reprise des titres par Jonathan Hickman. Mais nous ne manquerons pas de reparler de ça dans le prochain Comics Office, le podcast, évidemment.
Oui.
Sur ce, voilà, on se quitte vraiment là.
Salut.
Voilà.
Oui.
Ah, c'est la réco, ouais. C'est pas aussi bien le kite que Benny. Hein. Oh, c'est la réco. Oh putain, c'est pire.
Ouais.